Hashem, notre deuxième cours sur la neuvième lettre du Admor HaZaken, de Gerat HaKodesh, et pas juste après, voilà, septième ligne en haut de la page. Donc Bezrat Hashem, on va commencer notre deuxième shiur, et c'est un perek très important dans lequel l'Admor HaZaken, bonsoir, dans lequel on vient de démarrer, dans lequel l'Admor HaZaken va développer une lettre qu'il va adresser à ses chassidim, et dans lequel il leur reproche qu'il y a un sujet qui est tellement important, mais que malheureusement, avec la force des choses, on s'est endormi, on est presque dans un état comateux, d'accord? On est presque dans un état comateux par rapport à ça. C'est quoi le problème? De quoi il veut parler? Alors d'abord, bien sûr, il a commencé la lettre en rappelant comment il aimait les chassidim, et comment c'est justement parce qu'il aime, c'est les gens qui vous aiment, c'est eux qui vont vous dire des reproches. Et donc, l'Admor HaZaken, il dit, ce que je reproche, c'est quoi? C'est que quand aujourd'hui on va pour travailler, on le fait pas comme un juif doit le faire. Comment un juif doit se comporter? Un juif, normalement, il doit se comporter que lorsqu'il fait Torah et Mitzvot, et même lorsqu'il va au travail, il le fait pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il a donné un exemple très simple. Regardez, on s'arrête sur ça, c'est dernier. Il a dit, une personne, il fait Shema Israël, le matin et le soir. Qu'est-ce qu'il dit dans le Shema Israël? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit dans le Shema Israël? Dans le Shema Israël, il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors il va fermer les yeux, et il va dire Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Et vraiment, il va avoir toute la kavana, tout ce qu'il faut.
David, d'accord.
D'accord? Allez, monsieur, on s'assoit. Alors, Admor HaZaken dit la chose suivante. Il dit, mais attends, tu es à la synagogue, tu es honnête, tu dis, tu fermes les yeux, ça veut dire que tu veux montrer que tu es honnête, tu es à 100% dedans. Et qu'est-ce que tu dis? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire que tout est pour Dieu. Et après, tu vas dans les affaires. Dès que tu vas dans les affaires, c'est une autre personne. Il y avait le monsieur qui était à la synagogue, il sort, il arrive au travail, c'est une autre personne. Et après, le soir, il reviendra à la synagogue. D'accord? Alors, on n'est pas en train de dire Chas V'Shalom, c'est important ce que je vais expliquer. On n'est pas en train de dire Chas V'Shalom que la personne, il va aller au travail, quand il va aller au travail, il a plus de Dieu, il a plus de maître, il fait ce qu'il veut et c'est fini, il arnaque tout le monde. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire simplement que quand il va aller au travail, il va dire, bon, maintenant je vais travailler comme un homme. Quand j'étais à la synagogue, j'étais comme un juif. Maintenant, je vais travailler comme un homme. Donc, il faut travailler. Donc, kaviachol, si on peut dire, on oublie Akadosh Baruch Hu. Et on avait expliqué un point très important la semaine dernière. On avait dit que finalement, si on pose la question à toutes les personnes de l'humanité, on dit, pourquoi tu travailles? Il va te dire, je travaille, si c'est quelqu'un d'équilibré, il va te dire, je travaille parce que j'aime ma femme et mes enfants. Et comme j'aime ma femme et mes enfants, alors j'ai envie de les nourrir. D'accord? Ce que l'Admor HaZaken va développer ici, c'est quoi? Que Mikamcha Israël Goy Echad Ba'aretz, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Que le Ham Israël, quand tu lui poses la question, tu lui dis, pourquoi tu es là, hein? Ça veut dire que Goy Echad Ba'aretz, ça veut dire que c'est un peuple que même quand ils sont dans Aretz, même quand ils sont dans les choses matérielles, les choses Aretz, la terre, même dans ça, ils vont chercher le Echad. Ils vont chercher le Echad, ils vont essayer de chercher comment on va intégrer Akadosh Baruch Hu. Bon, alors ça, c'était ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus. Parce que de toutes les façons, on a dit qu'on allait expliquer ça aujourd'hui. D'accord? Parce que là, maintenant, on va essayer de comprendre où il va en arriver à l'Admor HaZaken. Bon, d'accord, on a pris des claques, il a dit, comment c'est possible, au travail, etc. Bon, concrètement, t'attends quoi de moi? Je vais au boulot, je pense à quoi maintenant?
C'est ça, tu peux pas tout le temps avoir la tête.
Hein, ouais. Je veux dire, bon. Comprends, je rentre à la maison maintenant, j'ai ma femme et mes enfants, je pense à quoi?
Et ça demande, et c'est pas ça, la fille là, on comprend, ça demande une préparation,
oui.
Ça demande un truc. Quand t'es au boulot, t'as besoin d'être, tu peux pas préparer à dire...
Bah oui, alors concrètement, je pense à quoi? D'accord, parce que l'Admor HaZaken veut toujours que ce soit concret.
Et moi, dans mon boulot, je peux pas, hein.
Voilà. Attendez. Parce que si je sors et qu'il n'y a rien de concret, on a rien compris. Ça, Bezrat Hashem, on verra tout à l'heure, on étudiera un petit peu dans le premier mamar du Rabbi Batil et Gani, sur le premier mamar que le Rabbi a dit, donc Yudjvat. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. D'accord? Alors, on va prendre la Arbezot Yotlan. Donc, page Kuf Yudalet. Arbezot Yotlan. Bonsoir. Arrête. Arbezot yot lanu. Donc on est à la page Kufu Dalet, septième ligne. Arbezot yot lanu. Donc où on veut en arriver? Biot kol asakenu bemilede alma. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous? J'ai expliqué la semaine dernière. Faut bien se rappeler du principe que j'ai expliqué la semaine dernière. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pas forcément qu'un jour dans notre vie on y arrivera. C'est pas le but. D'accord? On veut simplement savoir où est la cible.
Si c'est dit, c'est dit.
D'accord? Mais c'est très important. Ça veut dire que c'est pas forcément qu'on va y arriver. C'est pas le but d'y arriver. Le but, c'est de savoir vers où on va. Et comment, normalement, un juif devrait se comporter. Biyot, kol asakenu bemile de alma. Que toute notre vie, toutes nos affaires, bemile de alma dans les choses de ce monde, lo le garmayu. C'est extrêmement difficile de dire que tout ce que je fais dans ce monde, même quand je vais au boulot, je le fais pas pour moi. Ah, pourquoi je le fais alors? Ki im la chayot, nafshot, chelke elokut, ou les malot marsoreim, bechesed rinam shebazé. À nous, mesdames, matzura le yotzra shemechad. On doit être persuadé, mais c'est très très compliqué ça de le faire. À la synagogue, c'est facile. C'est facile à dire que quand je suis en train de faire une prière, je suis en train de chercher la divinité. Mais quand tu me dis que quand je suis au boulot, et quand je suis en train d'accueillir un client, en vérité, je suis pas en train de gagner de l'argent. Alors je fais quoi? En vérité, je suis en train d'associer des parties divines. Des particules divines. Comme ça, il est en train d'expliquer ici. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle? Asher, chesed al kol hayom, chesed shel emet la chayot haolam umlo, bechol rega verega. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il fait tourner le monde, et qu'aviachol, un juif, il doit réfléchir que quand je suis en train de travailler, j'aide Dieu à faire tourner le monde. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. D'accord? On va donner un exemple. D'accord? Je vais donner un exemple et je pense qu'avec cet exemple, on va comprendre. Mais c'est, vous allez voir que cet exemple, il va extrêmement compliquer les choses. Là. Regardez. Imaginez-vous que vous êtes dans un royaume, dans un palais. Dans ce palais, il y a plusieurs postes. D'accord? Il y a des ministres, il y a plusieurs postes. D'accord? Tu vas poser la question au ministre le matin quand il vient au boulot. Voilà, puisque c'est les élections en ce moment, on parle, d'accord? Chaim le Chaim. Tu vas poser la question au ministre, tu vas lui dire pourquoi tu travailles? Pourquoi tu viens au boulot le matin? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Réfléchissez bien, attention.
Pour le ministre,
il vient faire tourner le monde.
Hein? Donnez-moi un ministre du gouvernement, là, donnez-moi un ministre.
Bah, c'est tous parce qu'ils aiment leur pays. Leur pays.
Hein? Fillon, allez, François Fillon. Il vient le matin. Il arrive à 8h ou 9h. Il arrive à 8h du matin.
C'est le premier.
D'accord? Très bien. Il arrive à 8h du matin. Dans sa tête, il se dit, pourquoi je viens? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, vous allez dire, bon, parce qu'il aime son pays. Non, parce qu'il veut... D'abord, parce qu'il aime son pays. Il aime son poste. C'est un professionnel. D'accord? Il aime sa femme. Il aime ses enfants. Il aime sa paye.
Et il aime son honneur.
Et il aime son honneur. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que pour l'instant, c'est toujours, on a dit, il aime. J'aime. D'accord? Maintenant, imaginez-vous, écoutez bien ce que je veux dire. Pour nous, pour la Torah, le ministre idéal serait quelqu'un qui vient, qui dit, je viens pour faire tourner le royaume de Sarkozy.
Tu m'as dit, c'est le royaume.
Imaginez-vous un ministre qui vient, et dans sa tête, quand il dit, pourquoi je viens? D'accord? Ça, c'est un esclave, en vérité. Il dit, je viens pour faire tourner le royaume de Sarkozy. Si Sarkozy veut que je fasse ça, je ferai ça. Il veut que je fasse autre chose, je ferai autre chose. Concrètement, techniquement, il n'y a pas de différence. Les deux, ils vont venir au boulot, les deux, ils vont travailler toute la journée. Les deux, ils vont faire leur travail. La différence, elle est dans la tête. Que le premier, il est venu pour lui. Seulement, on l'a placé dans un poste, il dit, bon, il y en a un qui est plus haut que moi, moi je suis là, je fais ce que je dois faire, et c'est tout. Le deuxième, il n'est pas venu pour lui. Il est venu pour faire tourner quelque chose qui est plus fort que lui, qui est plus haut que lui. D'accord? Ça, Béhémet, on explique en Rassiloute que ça, c'est l'équivalent d'un esclave. On va, vous inquiétez pas, on va bien développer ça dans la suite du Pérec. Donc, l'Admor Hazaken, il dit.
Les serviteurs par rapport à un maître, c'est sûr qu'il est esclave.
Mais attention, même un esclave. C'est pas parce qu'on est esclave qu'on est content de faire ce qu'on fait.
Non. Mais bon, en général, la notion d'esclave qu'on a dans la religion juive, c'est pas la même que celle des gosses.
C'est vrai.
On doit les respecter, leur donner, un cadre de vie, un confort, etc.
Mais pas tous les esclaves aiment ce qu'ils font.
Malgré tout.
Il aime pas ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du ministre.
On aurait dû prendre un autre exemple. On aurait dû prendre un Guéno, alors.
Alors, chez Chassidim, on a l'habitude de donner cet exemple. On a l'habitude à dire, imaginez-vous quelqu'un que le rabbi a placé dans un poste. D'accord? Bien sûr que le rabbi lui a donné un poste, il lui a dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais il n'est pas là en train de dire, ah, moi je suis là, c'est mon poste, c'est ma mission.
Il est
là parce qu'il fait ce qu'on lui a demandé, pour faire tourner ce que son rabbi a demandé, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Ça, c'est le pchat.
D'accord. Si tu donnes le même exemple avec Sarkozy, puisque tu
oui, en parlais,
donc qui est le seul maître à bord,
bon.
Lui, il le fait pourquoi? Ou il devrait le faire pourquoi?
C'est pas ma question. Moi, je veux voir par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça, je donnais l'exemple.
D'accord. Donc, on a toujours...
Toujours, exactement. D'accord. Donc, dis ici l'Admour HaZaken. Allez, messieurs, on va pas perdre le fil. Dis ici l'Admour HaZaken. On doit savoir, un juif, il doit savoir que lorsqu'il vient au boulot, il vient pas pour gagner de l'argent. Il vient même pas parce qu'il aime sa femme et ses enfants. Il vient même pas parce qu'il aime ce qu'il fait. Il doit aimer ce qu'il fait. Il doit aimer sa femme et ses enfants. Pourquoi il vient au boulot? Il vient au boulot parce que c'est sa mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Et si Akadosh Baruch Hu, il fait que j'ai atterri dedans, ça veut dire que les particules de Kdusha que je dois récupérer, ils sont dans ce boulot.
Oui, c'est ma fille.
Une seconde. Écoute bien ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait que je vais aller au boulot. Parce que tu veux chez lui, pourquoi? C'est très simple. Si Akadosh Baruch Hu voulait que tu gagnes de l'argent, il aurait pu faire que tu gagnes au loto. D'accord? Tu travailles pas. Si le but du travail, c'est pour gagner de l'argent. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire que tu gagnes cet argent autrement. Tu travailles pas. L'argent, il arrive et c'est tout. Si Akadosh Baruch Hu a fait que pour arriver à cet argent, je dois travailler, Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour rien. Et s'il a fait que je vais dans un boulot qui est plus ou moins difficile, il y a une journée où ça marche, une journée où ça marche pas, et j'ai vu un client, après un jour un client m'a jeté, il m'a dit revenez plus me voir. Et après un autre, après je suis parti, j'ai trouvé un autre client. Ça, il t'explique l'Admour HaZaken, il te dit il y a pas de hasard. C'est pas que Dieu t'a dit bon, écoute, maintenant tu vas travailler, c'est la jungle, débrouille-toi comme tu peux. Il faut ramener de l'argent, tu ramènes à la fin du mois 3000, 4000, 5000 euros et c'est tout, tu te débrouilles. D'accord? Non, c'est pas ça le pchat. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Le but, c'est qu'au travers de nos relations, d'accord, de nos relations qu'on va avoir dans le business, eh ben on va côtoyer des gens et à chaque fois on doit se poser la question qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi dans cette situation?
On distribue à ces relations.
D'accord? Non, même pas seulement ça. Encore une fois, je suis pas en train de dire je dois mettre les tefilines à tous mes clients. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que par le fait même que je vais parler avec eux, que je vais être dans leur chemin. Rien, peu importe ils sont juifs ou pas juifs, c'est pas ça la question, d'accord? Je suis en train de faire tourner le plan d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que moi je le comprends ou je le comprends pas? C'est une autre question, c'est pas mes affaires.
C'est une action à faire.
Bien sûr, je dois travailler. Oui. Mais ça veut dire que je dois être persuadé que je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est très important de comprendre ça? Parce que quand un juif il comprend ça, automatiquement il va relativiser les épreuves. Quand t'as une épreuve qui arrive, quand t'as une galère qui arrive. Alors, d'accord? Ou même le contraire. Excusez-moi, il faut pas que je perde le fil. Mais même le contraire. Quand tu as un moment, t'as un client et ça a grave marché aujourd'hui. On va se dire, ah, aujourd'hui, j'ai assuré. Mais non, t'as rien assuré.
Non, d'accord. Il faut pas dire c'est grâce à moi, quoi.
C'est pas seulement ça. Non. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est ancré chez tout l'âme Israël, de dire que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Mais concrètement, quand je suis au boulot, ben, je pense à mon boulot. C'est comme le ministre. T'as le premier ministre. Bien sûr qu'il dit que c'est Sarkozy le président. Mais, il dit, mais moi je suis là. Moi quand je travaille, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui a démarché, c'est moi qui a fait. Viens te dire l'Admour HaZaken, il te dit pas du tout. Toi tu es là, tu es un pion. D'accord? T'es un pion. Ne crois pas qu'il y a des pions qui sont plus importants que toi. T'es un pion comme tout le monde. Ni plus ni moins. Ah alors pourquoi t'as un pion qui a marché plus qu'un autre? Parce que toi, Kadosh Baruch Hu, t'as un pion qui l'a décidé que tu dois aller chercher plus d'étincelles. D'accord? Ça t'a donné un poste pas pour gagner plus d'argent. Il t'a donné un poste pour aller chercher plus d'étincelles. Alors c'est très compliqué à réfléchir comme ça. Et c'est facile à réfléchir comme ça dans un cours. Mais vous comprenez que dans la vie de tous les jours, c'est très difficile à réfléchir comme ça. Comment tu réfléchis comme ça? Tu rentres à la maison. Alors après, on s'arrête pas. Alors après, tu rentres à la maison, tu regardes ta femme et tes enfants, tu dis, attends, mais qu'est-ce que je fais avec cette femme? Ah, des étincelles à récupérer. D'accord? Et quand, excusez-moi du terme, quand elle te casse les pieds, tu veux dire, oui, bon, étincelles à récupérer.
On verra demain.
D'accord? Mais ça, on relativise tout avec ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un tachlit. Je veux vous rassurer un petit peu. On dit que quand il y a des choses sur lesquelles on dit que des fois un homme et une femme ils s'accrochent, on dit que c'est parce que dans un gilgoul précédent, d'accord, ils doivent réparer un gilgoul précédent. C'est-à-dire que normalement, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont déjà accrochés sur un sujet similaire dans un gilgoul précédent. Un gilgoul, une réincarnation. Dans une incarnation précédente. D'accord? Et que là maintenant, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je veux dire. Akadosh Baruch Hu, il le remet devant une situation similaire, dans le même ordre d'idée, d'accord? Il dit, on va voir comment ils vont tenir. Est-ce qu'ils vont s'accrocher ou vont pas s'accrocher? Et c'est pour ça, j'ai lu un Sefer qui explique, il dit, c'est la raison pour laquelle vous remarquerez qu'en général, on s'accroche toujours à peu près autour des mêmes choses. C'est vrai, il y a des choses, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses où ça tombe toujours autour des mêmes choses. Pourquoi? Comment ça se fait? Même avec ses amis. Il y a toujours un ou deux ou trois points sensibles auxquels ça va toujours tourner autour. Le reste, ça passe. Comment ça se fait? Parce que c'est un gilgoul. parce qu'on a une étincelle à récupérer, on doit réparer quelque chose qui était pas bien dans le Gilgoul d'avant. Et la chose qu'on doit réparer dans ce Gilgoul, c'est la chose qui marchait pas dans le Gilgoul d'avant. Les autres, ça passe, ça coule. D'accord? Donc ça nous explique que c'est une manière complètement différente de voir les choses. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi c'est une approche à un chidouche? Parce que jusqu'à présent, on a toujours eu l'habitude, si tu veux savoir c'est quoi mes mitzvot, il y a 613 mitzvot. D'accord? 613 mitzvot, ça veut dire que j'ai un guide, d'accord? J'ai mon guide qui me dit voilà, tu feras ci, tu feras pas ci, tu feras ci, tu feras pas ci, tu feras ci, tu feras pas ça. Ok. Mais c'est clair, c'est défini. Mais là, le problème, c'est qu'avec ce que l'Admor HaZaken nous rajoute ici, on est parti beaucoup plus loin. Parce que finalement, on a créé des mitzvot et des avérotes partout. Dans une simple discussion que j'ai avec quelqu'un, c'est déjà une mitzvah, parce que je suis en train de réparer quelque chose. Je suis en train de faire quelque chose. Il n'y a rien qui est pour rien. Alors, il faut qu'on développe plus cette notion, parce que c'est une notion qui est très fine et qui est très dangereuse. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui deviennent fous avec ça. Vous savez, il y a des gens qui sont illuminés. C'est-à-dire, partout où ils vont, ils disent « je vois des lumières, je vois des trucs ». C'est peut-être pas faux, mais on peut devenir fou avec ça. Tu comprends? Le gars, il rentre à la maison, il rentre chez lui, il dit « ah, attention, si je suis allongé sur ce lit, c'est que... j'ai Bultex, ah, il y a quelque chose avec Bultex, il y a quelque chose, il y a une mission. » D'accord, Gimatria. Après, on devient fou avec ça. D'accord, faut arrêter. Faut arrêter la boucha, le Chaim Reim.
Faut rajouter de la boucha.
Pourtant, c'est pas faux. Pourtant, Bémet, c'est pas faux.
Mais, il faut doser la lumière.
C'est quoi les marques de Macla? Il y a, Simon, voilà. D'accord? Si j'ai choisi Epeda et pas Simon, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a toujours, mais bon. Après, tu vous comprenez qu'après un certain moment, les gens, moi-même, une personne qui va commencer à réfléchir comme ça, il va se prendre, il va dire, c'est pas possible, je donne ma boule ou quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc il faut qu'on développe plus loin cette notion. Pour comprendre quelles sont les limites et qu'est-ce que concrètement on attend de nous au jour le jour. Bon, théoriquement, on a compris, mais
quelque part, okay, oui, pour cette notion de récupérer l'étincelle, Gilgoul et autres. Mais c'est forcément, donc finalement, tout ce chemin ou ces trucs, c'est Dieu qui nous ramène à un endroit où on ne doit pas être, ou un truc, c'est tout ton,
c'est l'idée. C'est clair, bien sûr.
Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'être.
Si, tu vois là, tu es dans une maison, tu déménages dans une autre maison, tu ne devais pas forcément. Ah,
c'est bien sûr. Partout, c'est un Kadosh Baruch qui nous amène. D'accord. Mais là, on va te dire que ça va aller très très loin, ça veut dire même la couleur que tu vas choisir pour la peinture de ta maison. D'accord. Je sais pas, moi, le. Tout Mais ça rend fou, ça, de réfléchir comme ça. De réfléchir que dans chaque... qu'il n'y a rien qui est insignifiant dans la vie. Ça n'existe pas quelque chose d'insignifiant.
C'est possible que pour les tzaddik.
D'accord. Non, pas du tout. En vérité, c'est valable pour tout le monde. Seulement, nous, on n'est pas habilités à faire ces calculs. Mais c'est valable pour tout le monde.
On n'est pas habilité. On n'a pas les capacités intellectuelles pour le faire.
Donc on n'est pas habilité. D'accord.
Non, c'est pas habilité. C'est pas...
Bah, si, on n'est pas habilité à faire des calculs. On peut, une personne il peut chercher, mais on dit, mais bon, ce que tu...
La seule chose qu'on peut faire, nous, comme tu l'as dit, c'est de faire tous les jours au moins les 100 000 votes.
Voilà.
Ça, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Ce que l'Admor HaZaken va expliquer ici.
Parce que c'est plus concret.
Ce que l'Admor HaZaken va expliquer ici.
D'accord. Tu ne deviens pas fou, quoi.
On va développer. Ce que l'Admor HaZaken va développer ici, c'est ce qui va dire finalement quelles sont les limites. Parce que quand tu réfléchis comme ça, tu comprends qu'il n'y a aucun détail de ta vie qui est insignifiant. C'est un truc de fou. D'accord? Ça te rend fou, ça. On va expliquer. Rak seulement. Vous avez Rak chez Ishto? Rak seulement. Chez Ishto, chez la dame, ou Vanav, chez Ishto, ou Vanav, chez la dame, Kodmin, la colle, Alpi, à Torah. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre d'ici? Que lorsqu'en vérité, je vais nourrir ma femme et mes enfants. Alors, c'est très compliqué ce qu'il va dire ici, parce que c'est très très dur. Nous, pour nous, c'est évident que pourquoi avec l'argent que j'ai, d'abord, je nourris ma femme et mes enfants. Et après, s'il me reste de l'argent, je donnerai de la tzedaka, je donnerai à tous les nécessiteux. D'accord? Pourquoi ma femme et mes enfants ils passent avant? Nous, toujours, on dit, parce que ma femme et mes enfants, je les aime. Le Morazakin va dire, non, ça marche pas comme ça. Qui t'a dit, parce que tu les aimes, tu dois leur donner en priorité?
Sûrement à toi.
Attention. Qui te dit que tu donnes à ta femme et tes enfants en priorité? Qui t'a dit ça? La seule raison, c'est parce que la Torah m'a dit que elle a décidé que la femme et les enfants ils passent avant. Mais c'est pas parce que je les aime plus que les autres. Ça veut dire que comme j'ai expliqué la semaine dernière, quand on a une relation qui est basée exclusivement sur l'amour et pas sur un but, l'amour ça peut s'estomper avec le temps. Ça peut baisser, ça peut augmenter. Tout ce qui est basé sur l'amour, alors quoi? J'aime plus ma femme, je lui donne plus rien?
Sur la femme, ça peut baisser. D'accord. Les enfants,
en principe. Il s'énerve, il est énervé avec sa femme, il fait la tête à sa femme, alors ça y est, il lui donne plus rien?
C'est ça. Donc c'est une obligation.
D'accord. La responsabilité. Exactement. On voit que dans la Ketouva, on ne parle pas d'amour.
Non.
On parle de devoir. C'est pas, on parle pas d'amour. Bien sûr qu'à part ça, bien sûr que la Torah nous demande d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, etc. Mais c'est pas la raison pour laquelle on s'occupe d'eux.
C'est des rapprochements de l'échelle.
La raison pour laquelle je m'occupe de ma femme et de mes enfants, c'est pas parce que je les aime. C'est pas parce que je les aime. C'est parce que la Torah m'a demandé, d'accord? La Torah m'a demandé de m'occuper d'eux en priorité. Et après, je dois m'occuper des pauvres.
C'est un ordre de mission.
D'accord? Et c'est pour ça que selon le Ramban, alors je sais que c'est un peu des chidushim ce qu'on dit aujourd'hui parce que ça peut paraître bizarre. Le Ramban, il dit que, ça peut vous rassurer ça aussi, que nourrir sa femme et ses enfants, ça peut être comparé à de la tzedaka.
Ça rentre dans les 10%?
Non.
Ça va, on est couvert.
Les enfants,
ils sont pas, mais d'envoyer les enfants à l'école juive, c'est rentrer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Moi, on m'avait dit que...
Attends, excusez-moi, on va marquer des pauses parce que sinon on pourra pas s'en sortir. Il faut que j'arrive à la fin de l'idée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette lettre, d'accord? Dans la lettre qu'on est en train d'étudier ici, c'est une lettre qu'on verra à la fin, c'est une lettre que la Gemara Zaken a écrite pour encourager la tzedaka. Il va expliquer qu'en vérité, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est de la tzedaka. Même s'occuper de sa propre femme et de ses enfants, c'est de la tzedaka. Quand on réfléchit comme ça, on réfléchit de manière complètement différente. Je vais vous illustrer ça avec une autre histoire. J'ai entendu une fois, il y a un rav qui a raconté, il a dit que lorsqu'il était jeune marié, il avait, je crois, 2 ou 3 enfants, il avait un problème, c'est qu'il était très nerveux et que ça lui arrivait de frapper ses enfants. Et frapper, on va dire, de manière trop excessive, trop nerveuse. D'accord? Et il arrivait pas à se retenir. C'est-à-dire, chaque fois après qu'il les avait frappés, il regrettait, il arrivait pas à se retenir. Et il a raconté, je l'ai entendu, comment il a raconté, quand j'étais à New York. Il a raconté, il a dit que, bon, il a réfléchi, il a essayé de voir différentes techniques, etc. Concrètement, dès que ça arrivait devant le fait, il avait la main trop légère, et après il regrettait, etc. Et bon, ça faisait des scènes de ménage avec sa femme, ses enfants, etc. Bon, vous imaginez la suite. Alors, la fois d'après qu'il est parti chez le rabbi pour son anniversaire, il est rentré chez le rabbi, il a raconté ça au rabbi, il a dit, voilà rabbi, j'ai un problème, bon, tout va bien à part ça, mais ça me tue. Le rabbi lui a dit la chose suivante. Il a dit, chaque fois, avant de vouloir frapper ton enfant, tu dois t'imaginer comme si que ton enfant, c'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et que quand tu frappes ton enfant, tu frappes un enfant à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Et l'entrevue s'arrêtait là. Alors nous, ça nous paraît
simple
comme réponse. Ouais. Et ben concrètement, il a expliqué, d'accord? Il a expliqué que quand il a réfléchi comme ça, ça l'a calmé. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on explique dans cette lettre. Quand j'imagine ma femme et mes enfants comme quelque chose qui m'appartient à moi, comme quelque chose que j'aime,
c'est ma propriété.
Donc c'est ma propriété.
Je fais ce que je veux.
Donc moi, j'ai craqué. Mais quand tu dis, attention, c'est pas à toi, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est un dépôt qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Akadosh Baruch Hu t'a donné un dépôt, regardez, mais c'est pas à toi, c'est à Kadosh Baruch Hu. Automatiquement, on a une notion de shlichut, une notion de mission et une notion de responsabilité qui est beaucoup plus forte. La même chose que l'Admor HaZakeni dans son Shulchan Aruch à propos du corps. Il y a des gens qui pensent qu'avec son corps, on fait ce qu'on veut. Pas du tout. Il dit, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est un dépôt qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et on va nous poser des questions après. Quand une personne n'a pas fait attention à son corps, il n'a pas mangé comme il fallait, il n'a pas dormi comme il fallait, nous on se dit, bah, si je fais ce que je veux, c'est mon corps, alors je tombe malade. Non, ça marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu nous a donné un dépôt. C'est un outil de travail. Imaginez une personne, il a besoin d'aller dans un chantier, je lui donne un outil de travail, je lui donne une perceuse. Il fait pas ce qu'il veut parce qu'il a une perceuse.
Enfin, quand on arrive en fin de vie, là.
D'accord. Et ben, de là, il explique l'Admor HaZaken.
Ça sert à rien encore après.
Mais pas du tout. De là, il explique l'Admor HaZaken que si, par exemple, la perceuse, elle devait avoir une durée de vie de 80 ans, ouais, et qu'à cause que je l'ai mal entretenue, elle a duré 50 ans, on va me poser des questions. On va me dire de quel droit. Ça veut dire que rien n'est au hasard ici, rien ne nous appartient. Tout est pour un Kadosh Baruch Hu. Tu comprends? On va reprendre l'exemple de tout à l'heure du ministre. Le ministre, quand il rentre dans son bureau, c'est pas, il dit, bon, ici, je suis dans mon bureau, j'ai mon autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. En vérité, il n'y a pas d'autonomie. On t'a donné un outil de travail, tu dois essayer de t'en occuper au mieux. Mais c'est pas à toi de prendre les décisions. C'est à Kadosh Baruch Hu qui prend les décisions. Donc, je reprends. Pourquoi l'Admor HaZaken explique ça ici? L'Admor HaZaken veut expliquer ça ici pour dire que normalement, qui a dit qu'on a donné à sa femme et à ses enfants en priorité? Personne n'a dit ça. Qui t'a dit que même pour manger, ça passe en priorité? D'accord? Ah, attends, 2 secondes. C'est la Torah qui l'a dit. D'accord? Mais ça veut dire qu'il faut dire que ça passe par la Torah. Ça veut dire que le sens des priorités que les gens disent, ça je veux, ça je veux pas. Ça j'ai envie de donner, ça j'ai pas envie de donner. J'ai envie de donner à ma femme et mes enfants, mais ça j'ai pas envie de donner. D'accord? Ou bien, une personne qui dit ça, j'ai envie d'acheter à ma femme. Hein, on va répéter ça à vos femmes. Ça, j'ai pas envie d'acheter à ma femme. Ça n'existe pas. Vous voyez, par exemple, la Torah nous dit qu'un homme, si ses moyens lui permettent, il a l'obligation d'acheter à sa femme et à ses enfants des cadeaux avant les fêtes. Ouais. Si ses moyens lui permettent. D'accord? La Torah ne dit pas si tu as envie. S'en fiche si t'as envie. C'est pas nos affaires si t'as envie. C'est presque comme une tzedaka. C'est une obligation, c'est un devoir. C'est ce qu'il explique ici, l'Admor Hazaken. Il dit que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est sur ça qu'il réprimande ses racidim. Le problème qu'on a dans le monde aujourd'hui, et quand on réfléchit, on voit que mamash est notre problème. C'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait par amour. Ça j'aime, ça j'aime pas. Ça j'ai envie de donner, ça j'ai pas envie de donner. Ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie de faire. Mais qui t'a demandé ton avis? Et alors si t'as pas envie de faire? Et alors si t'as pas envie de donner? Fais ce que tu dois faire et c'est tout.
Même au-dessus de ses moyens. Ouais,
amour, mais d'accord? Pas, d'accord?
Même au-dessus de ses moyens.
Même au-dessus de ses moyens, mais ce qui veut te dire, le Moura Zakendi, c'est que même ce que tu donnes à ta femme, à tes enfants, tu ne le fais pas par amour. D'accord? Alors c'est pour ça, après le Moura Zakendi expliquera dans la suite, il dira qu'il y a des gens, par exemple, qui disent, on n'a pas envie de manger. On n'a pas envie de dormir beaucoup. Pourquoi ils n'ont pas envie de dormir beaucoup? Il dit parce que t'imagines, au lieu de dormir 6 heures par nuit, on aurait préféré dormir 2 heures par nuit. Et avec le temps qui reste, le temps qu'on va gagner, on va étudier la Torah. Donc, je fais un calcul. Je dis, moi, je vais étudier la Torah. Je veux gagner, au lieu d'étudier, je sais pas, moi, 6 heures par jour, je vais étudier 9 heures par jour. Je vais gagner 3 heures, 4 heures. Qu'est-ce qu'il te dit là de Morazaken? Morazaken dit, mais pas du tout. Parce qu'encore une fois, c'est un calcul égoïste, ça. J'ai décidé que j'ai envie d'étudier plus et j'ai décidé que c'est ce que la Kadosh Baruch Hu attend de moi. Mais dis, mais on t'a rien demandé à toi. C'est pas toi qui décide. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu décide. Et si Akadosh Baruch Hu t'a donné un corps qui a besoin de dormir 6 heures, il faut lui donner ces 6 heures. C'est une approche, c'est un grand ridouche cette approche. Je sais pas si vous imaginez.
Ah, c'est,
d'accord?
C'est
parce que une personne qui est en train de dire, je décide, je veux, on lui dit, mais qui t'a demandé ton avis? Akadosh Baruch Hu te demande d'essayer de voir de quelle manière tu vas le mieux le servir.
Alors tous ceux qui d'accord. Étudient au collège pendant des heures et des heures, ils vont pas travailler.
Non, j'ai pas dit. C'est pas la question ici. Ce que je vais expliquer, c'est ça. D'accord. C'est que on doit savoir dans chaque partie de notre vie que chaque chose, chaque instant, on le donne pour un Kadosh Baruch Hu. Donc, vous voyez, je vois sur vos visages que c'est une notion qui est difficile à comprendre. D'accord. Et BMET, c'est une notion qui est pas seulement difficile à comprendre, c'est une notion qui est très difficile à mettre en pratique.
Ah, c'est plutôt ça. La comprendre, tu peux comprendre,
mais bon.
Mais après, finalement, tu passes tellement dans le naturel.
Après, c'est compliqué à comprendre ça, tu comprends? Après, tu appliques ça partout après.
Hein? C'est
très compliqué. C'est très compliqué à réfléchir comme ça. Parce qu'après, ça s'arrête plus. C'est même quand tu vas donner. Ça veut dire que, en vérité, en un mot, ce qu'il faut retenir du cours d'aujourd'hui, c'est qu'on doit imaginer la vie comme un devoir.
Ça, tu
pas peux... comme quelque chose que j'ai envie de, non, que j'ai, qu'on m'a mis non. Sur un poste de position. Il y a des choses que je veux faire, des choses que je veux pas faire.
Ça, tu peux... À partir du moment où tu te dis ça, c'est mon idée générale.
Oui.
Tu es obligé d'y penser à chaque moment ou à chaque
c'est instant. Vrai. Mais c'est difficile, mais on peut y arriver. On peut y arriver.
Il y a des moments dans la journée
où on pense, mais attention. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je ne pose pas la question est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que j'ai pas envie de le faire. Je me pose la question, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi maintenant? Quel est mon devoir maintenant? Réfléchir comme ça en tant que devoir. C'est pour ça que le rabbi il avait l'habitude d'amener beaucoup l'exemple des soldats. Un soldat, hein, d'accord, quand il est à la guerre, il se pose pas la question qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie? Tu veux savoir ce qu'il a envie de faire? Il a envie de rentrer chez lui et dormir. Il se pose la question quel est mon devoir? Et le rabbi il expliquait souvent, il disait que souvent quand on a envie d'imaginer, de savoir comment Akadosh Baruch Hu il attend de nous, comment on doit se comporter, il dit, on devrait s'imaginer comme un soldat. D'accord? C'est pour ça que très souvent dans la Torah, exactement, on voit que quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous appelle Tzivot Hashem. Tzivot Hashem. Les armées de Dieu. Prends, on nous compare à une armée. Aujourd'hui, quand on entend le terme armée, tout de suite, ça fait très, tout de suite, péjoratif. La guerre, etc. Mais on doit prendre le bon côté de l'armée. Le bon côté de l'armée, c'est qu'un soldat, Il a une discipline, il est au service de son pays, et tant qu'il n'est pas arrivé à la mission, il s'arrêtera pas. Quitte même à donner sa vie.
Et le jeu n'existe pas.
D'accord? Quitte même à donner sa vie pour ça.
D'ailleurs, c'est une
petite... D'accord, allez-y. Oui.
C'est, ce qui est surprenant, c'est que, lorsqu'on regarde toutes les armées qui existent à travers le monde, la seule qui a un nom, comme une personne, une identité, c'est Tsahal.
Les autres n'ont pas de...
Elles n'ont pas de nom. Elles n'ont pas un nom, elles n'ont pas une identité. Comme une personne a son prénom et son nom.
Ils n'ont pas, les autres n'ont pas?
Non pas. C'est la seule qui existe. Tu remarqueras, c'est que de ça.
US Army.
US Army, ouais.
C'est tout.
Tu dis les GI.
L'armée française, etc.
Les GI, c'est un corps.
Non, c'est un corps.
Ok.
Et la seule qui existe, qui a avec un nom, une entité, parce que le nom,
non, il veut dire, ouais, Tzva Hagana l'Israël.
Ouais, mais ça veut dire que ce nom-là, et il porte en lui, ce que tu es en train de dire, cette mission qui va.
Mission, la notion de mission.
Jusqu'au bout.
Tandis que Hagana.
Les deux armées n'ont pas.
Le terme Hagana, c'est vrai, c'est juste ce que vous dites.
C'est défini comme étant
une Hagana. Ça veut dire que dans le nom, on définit le rôle. J'ai compris.
Belliqueuse.
Voilà. Ouais. Et c'est la seule qui a cette identité-là.
Oui, d'ailleurs, c'est une chose qu'ils appuient toujours sur ça, que nous, on est là pour se défendre, on n'est pas là pour attaquer. Ma vache, c'est important.
Ouais,
d'accord. En tout cas, ce qu'on voit chez un soldat, on voit cette notion-là qu'il n'est pas là pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pas faire? Il se pose la question, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois pas faire? Et ça, l'Admor Hazaken dit qu'on doit, réfléchir comme ça, même pour une chose aussi simple que nourrir sa femme et ses enfants. Parce que tu comprends, quand on te dit, par exemple, tu dois nourrir ta femme et tes enfants, si je dis que je le fais parce que j'ai envie, et le jour où j'ai plus envie, on m'a pris la tête, j'ai dit, moi, je donne pas. J'ai pas envie. Je le fais parce que je veux. Maintenant, je veux pas. Non, on t'a pas demandé ce que tu veux, ce que tu veux pas. C'est une question de devoir.
On n'est pas en train de parler de vouloir ou d'aimer.
C'est un devoir.
On parle de faire. Ou de ne, enfin, de pouvoir faire ou de ne pas pouvoir faire.
Exactement.
En tout cas, tu dois le faire.
Tu dois le faire. C'est pas on n'a rien à faire à la limite si tu veux. C'est un autre sujet, est-ce que tu veux ou tu veux pas. Le soldat lui demande de faire la chose. Où il va en arriver là-devant à Zaken? C'est une lettre dans laquelle il va parler de la tzedaka. Tu sais, dans la tzedaka, c'est le problème. C'est quoi la tzedaka? Des fois, on a de quoi donner. Mais on veut pas donner. L'Admor Hazaken est très clair. Il y a en allusion, mais on comprend ça entre les lignes. Il dit, mais qui a dit que tu dois vouloir donner?
Tu dois
donner. Qui t'a demandé l'heure? Tu dois donner. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On doit réfléchir en tant que devoir. Et même le rapport qu'on a avec sa femme et ses enfants, d'accord? C'est un devoir. Alors ici, il amène un exemple intéressant. Vous savez que, normalement, Alpi Alaha, on n'a plus l'obligation de nourrir ses enfants.
Jusqu'à 6 ans.
Après 6 ans. Après 6 ans, on n'a plus l'obligation de nourrir ses enfants. C'est-à-dire qu'on peut leur imposer, à aller travailler. Et c'est écrit que quand on nourrit ses enfants à partir de 6 ans, bon, à l'époque 6 ans, ils étaient quand même déjà plus mûrs qu'aujourd'hui. Quand on nourrit ses enfants à partir de 6 ans, c'est considéré comme une tzedaka. Mais pas tzedaka dans le sens charité. Du style, ouais, bon, je l'ai donné. Non, du style, c'est un devoir. C'est un devoir, mais c'est comme ça.
Donc les Chinois ont tout
d'accord
compris.
Bon. Maintenant qu'on a réfléchi comme ça, on a bien compris que dans la tzedaka, on a bien compris que dans la vie en général, il faut pas réfléchir dans le sens de ce que je veux et ce que je veux pas. C'est surtout dans une question de devoir. Et quand un soldat il va en guerre, d'accord? Il y a peut-être des missions qu'il a plus envie que d'autres. On lui dit, écoute, on pose pas la question qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. On te pose la question maintenant selon ce qu'on t'a donné, il y a un ordre de priorité. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Donc on va lui donner une liste. Target, d'accord? Des cibles. On dit voilà, d'abord tu essaies d'attaquer ça. Si t'as fait ça, après tu passes à la cible numéro 2. Après cible numéro 3. Mais non, moi je préfère la cible numéro 3. D'abord la 1, après la 2, après la 3. C'est la même chose. Dit l'Admor Hazaken, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu dit que dans nos devoirs, dans la liste de nos devoirs, il y a aussi un ordre de priorité. Dans l'ordre de priorité numéro 1, qui c'est qui est dans l'ordre de priorité numéro 1, dans la cible numéro 1, c'est sa femme et ses enfants. Il faut d'abord nourrir sa femme et ses enfants. Ça veut dire que quand il y a des gens qui sont là en train de donner de la tzedaka, sur le compte de leurs femmes et de leurs enfants, ils ont rien compris. Pourtant, ils peuvent dire, non, mais je fais une mitzvah, etc. Mais non. D'accord? Parce que nous, on n'est pas là en train de réfléchir ce que tu veux, ce que tu veux pas. On parle de devoir. C'est comme un soldat. Il y a des cibles. Cible numéro 1, cible numéro 2, cible numéro 3. Cible numéro 1, d'abord, occupe-toi de ta femme et tes enfants. Donne-leur à manger comme il se doit. Fais qu'ils soient heureux. Ça, c'est cible numéro 1. Cible numéro 2, tu vas donner la tzedaka. D'accord? Ça à part le maaser. Maintenant, dans la cible numéro 2, dans la tzedaka même, il y a plusieurs catégories de tzedaka. Il y a la tzedaka pour les tzadikim. Il y a la tzedaka pour les yeshivot. Il y a la tzedaka pour les habitants d'Eretz Israël. Il y a la tzedaka pour les voisins. Il y a la tzedaka pour la famille. D'accord? Des gens de ma famille, peut-être, Hasvei Shalom, qui ont besoin. Même dans ça, la Torah a créé un ordre de priorité. Pas parce que je les aime plus ou je les aime moins. C'est pas la question. Parce que la question, c'est exactement comme un soldat. Il y a un ordre dans les cibles. C'est un ordre que Kadosh Baruch Hu t'a envoyé en mission. Il t'a dit voilà, cible numéro 1, cible numéro 2, et si tu peux, cible numéro 3, et si tu peux, cible numéro 4, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on doit réfléchir comme un soldat. Donc, regardez comment l'Admor Hazaken va développer maintenant. Alken. Ahuvai, Achai. Mes amis, d'accord? Mes aimés, mes frères. Simuna levavrem la'ela dvarim anemarim biktsara meod. Faites attention à ce que je vais dire, mais vous avez remarqué que je le dis de manière très courte. D'accord? Ve'im irtze Hashem panim al panim ad Avraham baruka. Il promet au chassidim que face à face, il développera ça plus longuement. Bon, nous on n'était pas là face à face. Ech eyot kol ikar avodat Hashem be'itim alalu be'ikvot meshicha yavodat atzaka. Il dit, si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer, vous avez compris qu'en vérité aujourd'hui, l'essentiel du travail d'un juif, c'est la tzedaka. Pourquoi? Kmo shamur hazal en Israël nigali mela bitzaka. Il dit, regardez, Mara nous dit que l'âme Israël, il va être dévoilé seulement par la tzedaka. Pourquoi on ne dit pas que l'âme Israël va être libéré par le limoud de Torah? Pourquoi on dit que l'âme Israël va être libéré par la tzedaka? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la tzedaka, à tel point qu'on nous dit que la tzedaka, c'est elle qui va nous amener la geoula? Regardez comment l'Admor HaZaken va développer, c'est magnifique.
Si on prend tzedaka
comme attendez, on va développer, excusez-moi, on va développer. Regardez comment l'Admor HaZaken va développer, c'est magnifique, d'accord? En fait, il va nous montrer que maintenant qu'on a réfléchi, maintenant qu'on a compris cette notion, que dans la vie, on n'a pas à réfléchir à ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris. Donc, l'étude, ce que je veux étudier, ce que je veux pas étudier, ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris. On doit réfléchir en termes de tzedaka, ça veut dire en termes de devoir. Ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Et dans les devoirs, il y a une ordre de priorité. Très bien. Il va expliquer maintenant comment progressivement, plus on a avancé dans les générations, c'est très intéressant ce qu'il va expliquer ici, et plus on a vu comment la cible a quelque part changé. On va reprendre les générations depuis l'époque du Talmud. Et on va voir comment progressivement, la cible et ce qu'on attend d'un juif a changé. Regardez comment il va expliquer. Velo amru razal, Talmud Torah, shakul kenegad gmilut hasadim. Les chachamim ont dit que l'étude de la Torah, vous avez dans les mots, équivaut à gmilut hasadim. Je sais pas où on est dans les... Je vais un peu vite parce qu'il développe longuement ça. Velo amru razal, ici là. Lo amru razal, Talmud Torah, shakul kenegad gmilut hasadim. Les chachamim ont dit que l'étude de la Torah équivaut à gmilut hasadim à la tzedaka et la bimehem. Seulement à l'époque de la Gemara. Qu'à l'époque de la Gemara, chez Limou, chez Talmud Torah, Aya Ikar, Avoda, Etzlam. À l'époque de la Gemara, l'étude de la Torah était le principal chez eux. Vous savez, la Gemara dit la chose suivante. C'est une Gemara qui dit que le monde, les 6 millénaires de notre monde, on est maintenant dans le 5e, donc on est enfin dans le 6e, pardon. Les 6 millénaires de notre monde sont découpés en 3. Deux premiers millénaires, c'est Tohu. Tohu, c'est la pagaille. Parce qu'on sait que les deux premiers millénaires, jusqu'à la naissance de Avraham Avinu, d'accord?
Avant 2000.
Oui, mais Avraham Avinu, il a commencé à dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu à l'an 2000. D'accord? Donc jusqu'à Avraham Avinu, c'était la pagaille dans le monde. Et même s'il y avait Shem, Ever, Noah, etc., mais c'était, on va dire, chacun était dans son coin. D'accord? Donc, Shnei Alafim, c'est 2000 ans, ça. Dans la paracha, dans la Torah, c'est 2-3 parachas, mais c'est 2000 ans. Quand? 2000 ans, Tohu, de pagaille. Après ces 2000 ans de pagaille, on a eu Shnei Alafim Torah. 2000 ans, pendant lesquels on a construit la Torah. Quand vous regardez la construction de la Torah, ça commence à partir de quand? Ben, on a reçu la Torah en quelle année? 2048. D'accord? C'est-à-dire que le moment où Avraham Avinu, il a commencé, donc il a fait son impact, et concrètement, le moment où on a commencé, 2448, pardon, le moment où on a commencé concrètement à faire l'étude de la Torah, ça a commencé avec Avraham Avinu, qui a posé, on va dire, les pieds. On a reçu la Torah, Torah Shebirta, la Torah écrite. Après, on a eu le développement de la Torah écrite, la Mishnah, la Gemara. La Gemara était terminée quand? Vous savez combien de temps que la Gemara était terminée?
2000 ans.
D'accord? 2000 ans. Ça veut dire qu'on a eu 2000 ans de construction de la Torah. Après, il n'y a plus rien après. Après, tout ce qu'on a aujourd'hui, le Shulchan Aruch, les décisionnaires, etc., c'est les rabbins de chaque époque. Comment ils ont compris la Gemara? Mais pour nous, la Gemara, c'est la référence. Alors, à quoi ça correspond les deux derniers millénaires? Les deux derniers millénaires, dit la Gemara, c'est Yemot HaMashiach. Mashiach. C'est-à-dire quoi Yemot HaMashiach? C'est-à-dire que maintenant, on est en train de préparer les pas de Mashiach. C'est la Gemara qui dit ça. Gemara Sanhedrin. Elle dit que le monde se sépare en 3 phases. Première phase, la pagaille. Il fallait que le monde passe par une phase où c'est pas défini. Deuxième phase, construction de la Torah. Troisième phase, construction de l'époque messianique. Donc maintenant, on est dans la troisième phase. On est en plein dedans. D'accord? Et donc, l'Admor HaZaken, il dit, c'est la raison pour laquelle il y a des choses qu'on lit dans la Gemara, mais qui ont changé aujourd'hui. Par exemple. Vous regardez dans la Gemara, c'est écrit dans la Gemara à certains endroits, que l'étude de la Torah, c'est plus important que tout. Dans la Gemara, on vous dira par exemple qu'il y avait des gens qui étudiaient la Torah et que tellement ils étaient préoccupés par leur étude qu'ils ne priaient pas. Plus que ça. Tellement ils étaient préoccupés par leur étude qu'ils faisaient un strict minimum de mitzvot. Ce qui est inconcevable aujourd'hui. C'est inconcevable. Comment ça se fait? D'accord? Et tu dis, tu vois, c'est un exemple, ça, des choses que tu ne peux pas te baser sur la Gemara et te dire, c'est écrit dans la Gemara, alors on le fait. T'as vu, à l'époque, la Gemara, ils passaient toute leur journée à étudier la Gemara, alors nous aussi, on a passé toute notre journée à étudier la Gemara. Le but a changé. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut passer toute la journée à étudier la Gemara. D'accord? Admour HaZaken te dit non. Ça, c'était à leur époque. À l'époque du Admour HaZaken.
On pense tous d'accord, comme ça, hein.
Quoi?
On pense tous comme ça.
Eh ben non, c'est une erreur. À l'époque de la Gemara, effectivement, on était encore dans les Shnei Alafim Torah. Dans les deux millénaires de construction de la Torah. Donc, il fallait mettre un maximum dans la Torah. Dans l'étude de la Torah. Aujourd'hui, bien sûr qu'on doit étudier la Torah. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais aujourd'hui, on doit se focaliser, notre but doit être sur Yemot HaMashiach, la construction du temps messianique. Et donc, on est des soldats maintenant. Avant, leur but était de comprendre la Torah et de construire la Torah. Ça, c'était leur but à l'époque. Aujourd'hui, notre but est d'amener Mashiach. On est des soldats. Akadosh Baruch Hu nous a mis sur le champ de bataille. Il a dit, tant que vous n'avez pas amené Mashiach, on sera pas tranquille.
On n'a pas un ordre de mission.
Bien sûr, on a un ordre de mission.
On est soldats.
Bah, bien sûr. La Torah te dit par exemple, ta femme et tes enfants, ils passent avant. D'accord?
Oui, mais non.
Bien sûr. Pourquoi? Par exemple, dans la Tzedaka. La Torah te dit, d'abord, tu donnes à ta femme et tes enfants. Après, tu donnes, on va donner un ordre, très clair. C'est-à-dire qu'il y a un ordre de mission. Mais tout ça, pour te dire quoi? Pour te dire qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment, bien sûr qu'on doit être dans l'étude, mais même l'étude, le but de l'étude, c'est une des cibles pour amener Mashiach. Pour construire l'avènement messianique, pour préparer le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'aujourd'hui, on peut plus se cloisonner. On peut plus se cloisonner dans un endroit et de dire, ça y est, maintenant, on se ferme et on n'écoute pas les autres. C'est la raison pour laquelle vous remarquez que dès qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que on devait construire, on devait préparer Yemot HaMashiach, Akadosh Baruch Hu nous a mis en galoute. On n'est plus en Eretz Israël, dans des ghettos, etc. Il nous a envoyés partout dans le monde. Parce que maintenant, notre rôle, c'est quoi? C'est préparer l'avènement messianique. D'accord? J'ai lu un commentaire très intéressant qui dit, comment ça se fait quand vous voyez les pays d'Afrique du Nord, vous voyez le Maroc, la Tunisie, vous voyez des pays pendant lesquels, pendant des siècles, il y a eu, d'accord? Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de juifs, et maintenant il n'y a presque plus personne. Comment ça se fait? Je veux dire, comment ça se fait? Comment on explique ça? D'accord? Exactement. Parce qu'il y avait une mission, la mission était faite. Et s'il n'y a plus rien sur place, c'est-à-dire que la mission a été faite.
Donc tu veux dire que les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, ils ont été bons?
Eh ben oui, bien sûr.
C'est ce qu'on est en train de dire. Pas grand chose.
D'accord? Ils ont récupéré. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on réfléchit en termes de mission, d'accord? Et on réfléchit en termes de, aujourd'hui, on réfléchit en termes de mission et en termes de amener Mashiach.
En France, on a du boulot.
D'accord? Et c'est la raison, c'est ce qui explique pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait que le Ham Israël, quand vous regardez l'histoire du peuple juif, on n'est jamais resté plus de 200-300 ans dans le même endroit. On a toujours déménagé, on est toujours, d'accord? Même 300-400 ans, allez, je vous accorde 400 ans. Dehors. Parce que c'est ça la rotation.
Les endroits, on n'est pas allé quand même. Il y a des endroits comme la Chine, des machins comme ça, on n'est pas allé. Mais pas, yeah. Pas la taille du, il y a des pays, l'Inde, tout ça. C'est un petit peu.
Ils distribuent.
Ils sont persécutés comme les
catholiques. Tribus, hein.
Ils font la religion.
D'accord. Ils distribuent.
Oh, peut-être que finalement, il n'y a pas, peut-être pas autant de, tu sais, pas répartis, uniformément sur le globe. Ils ont droit, il y en a beaucoup plus.
Mais tu as.
Je pense qu'en Espagne, il devait y en avoir beaucoup.
Bien sûr.
S'il y a autant de concentration,
leur
mission en Espagne.
Mais aujourd'hui, il y en a encore, mais très peu. C'est-à-dire qu'ils ont fini. C'est-à-dire que la mission était accomplie, ça y est. Et quand Akadosh Baruch Hu pense que la mission est accomplie, il va faire ce qu'il faut pour qu'on s'en aille.
Donc, les États-Unis,
David, il va sur la carte. Donc ça nous permet de comprendre.
D'accord.
Bon.
Affaire.
Donc, on va imaginer ça. On va imaginer ça comme on va donner une image. Imaginez-vous qu'il y a un général qui doit donner les ordres aux soldats, qui doit leur donner la feuille de route. Mais le général, il n'est pas là. On le voit pas, on l'entend pas. Le général, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors comment il fait pour donner la feuille de route? Il s'arrange pour que la situation ait la feuille de route.
Oui.
D'accord. Et donc, il s'arrange pour que je ferai en sorte, d'accord? C'est un petit peu comme quand on envoie un espion, il dit mais où je dois aller? Tu dis t'inquiète pas, je m'arrangerai déjà pour que tu ailles où tu dois aller.
Faut pas oublier ta boussole.
Ah, ça fait un peu, d'accord, suspense,
ça
tu vois.
Mission impossible.
Voilà, tu dis t'inquiète pas, je m'arrangerai déjà pour que tu ailles où tu dois aller.
C'est possible, c'est un peu comme les chaliards.
C'est ça. Vous savez que dans les services secrets, il y a ça. Dans les services secrets, on envoie des fois quelqu'un. Et comme on peut pas lui donner beaucoup trop d'éléments, on lui dit on t'envoie. Il dit t'inquiète pas, on s'arrangera déjà pour que tu arrives. D'accord? On s'arrangera pour que tu arrives où tu dois arriver. C'est pas tes affaires. Toi tu y vas et après tu débrouilleras. Pourquoi je vous explique ça? Pour comprendre quoi? Ça, je pense que c'est ma vache, un chiour de base. Très important à comprendre ça. Parce que là, on comprend qu'en vérité, aujourd'hui, on réfléchit en termes d'amener Mashiach. C'est comme ça qu'on doit réfléchir sur chaque chose. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission. Dans une mission, il y a des priorités. Mais il faut comprendre pourquoi on a une mission. Notre mission est ici pour amener Mashiach. Même étudier la Torah, pourquoi on étudie la Torah pour amener Mashiach?
Donc, l'exil a un sens depuis 2000 ans, quoi.
Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, je vous donne un exemple. Quand une personne a pas beaucoup de temps pour étudier la Torah, et il se pose la question, il dit, qu'est-ce que je dois étudier? D'accord? Il a le choix, il peut soit venir à un cours de Gemara, soit venir à un cours de Halakha, soit venir à un cours de Tanya, d'accord? Soit venir à un cours de Tfila, soit venir à un cours de... Il a le choix, à quoi il doit venir. Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse c'est qu'il doit, encore une fois, il ne doit pas réfléchir en termes qu'est-ce qu'il aime le mieux. Il ne réfléchit plus comme ça aujourd'hui. Il doit réfléchir dans un sens de priorité, qu'est-ce qui va aider le plus ma mission? D'accord? Non, pas du tout. La Gemara, ça n'aide pas ta mission.
Ça t'aide à faire les mitzvot.
Pas du tout. Non? La Gemara, c'est en dernier lieu. Attention, j'en fais tous les jours, hein, mais c'est pas la question. La Gemara, c'est en dernier lieu. D'accord? Je t'expliquais? En premier lieu, c'est la halakha.
Oui, mais bon.
Écoute bien, non, non. Écoute bien. En premier lieu, c'est la halakha. C'est le plus important. Parce que la halakha, pour le soldat, d'accord? La halakha, c'est le guide du soldat qui lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les ordres. C'est le plus important, la halakha. D'accord? S'il a du temps en plus, d'accord? S'il a du temps en plus, il faut étudier des cours de pensée juive. Comme le Tanya, par exemple. Qui lui permettent de savoir comment servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'encore une fois, il est en train de comprendre comment il doit se comporter sur le terrain. D'accord? S'il a encore du temps, il rajoute dans la Mishnah. D'accord? Et s'il a encore du temps, il met dans la Gemara. Bien sûr qu'on, maintenant, la Gemara Zaken, il dit que quand même, un juif, il doit essayer dans sa vie de faire un peu de tout. Pourquoi? Parce que quand on va arriver en haut, à Kadosh Baruch Hu, il nous referait étudier les mêmes sujets qu'on a étudiés en bas, mais avec, tu vois, tu l'avais étudié, toi, que dans la Gemara, moi, je te mets tous les commentaires dessus. C'est pour ça qu'il faut essayer d'emmagasiner un maximum de sujets ici-bas. Même des sujets qu'on comprend pas trop, parce que quand on arrivera en haut, on les comprendra. Mais on nous ouvrira seulement les portes des sujets qu'on a déjà étudiés. D'accord? Bon, je referme la parenthèse.
On peut scanner, quoi.
Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une mission. D'accord? Aujourd'hui, on a une mission. Notre mission, aujourd'hui, c'est quoi? D'accord? Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est des termes qui sont, aujourd'hui, c'est un terme qui est pas très populaire. On dit le mot mission, on entend le mot missionnaire. C'est un terme qui est pas très, d'accord? Mais c'est quand même une mission. D'accord?
Sans vraiment faire de lien, une mission.
D'accord?
C'est pas mal. Une mission, c'est une ligne.
D'accord?
À suivre et qui,
il a fait tchouva.
C'est bien, c'est bien.
Comme on dit, vous savez, dans chaque, on en a parlé à Shabbat matin. Chaque entreprise, ils ont ce qu'on appelle une mission statement. Alors, je sais pas comment on dit ça en français, un slogan peut-être ou un, comment on peut traduire ça en français? Comment on parle ça en français? Leitmotiv?
Non,
pas leitmotiv.
C'est un état missionnaire.
On verra après. Non, pas du tout. C'est-à-dire, la déclaration de...
Une charte.
Une déclaration d'intention.
Une charte.
Non, c'est pas une charte. Mission statement, en général, ça se fait en une ligne.
Oui,
c'est le slogan. Peut-être. On peut dire slogan. Mais c'est pas traduction exacte.
Ah non, une mission de foi.
C'est ce qui explique pourquoi on est là.
Profession de foi. Profession de foi.
Une charte.
D'accord, bon. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Dans toutes les grosses boîtes, ils ont toujours une ligne. Qui disent, dans une ligne, ils mettent, c'est quoi leur boulot?
Renault.
D'accord?
De...
Bon, Renault, on parle pas de Renault.
Non, mais c'est un exemple.
Alors. Après, il faut que le slogan il corresponde à la réalité, parce que sinon.
Celui de Marseille, c'est bon. Hein,
comment tu traduis?
C'est pas mal ça.
Énoncé de mission.
Énoncé de mission? Oui, bon, ça c'est une traduction littérale.
Ouais, c'est le but, c'est quoi? C'est le but de la compagnie en fait.
Profession de foi.
On va lire dans les mots. Lo Amrou Razal. Donc là, l'Admor Hazaken veut expliquer comment. Et ça, ben, mettre ça en rapport avec le mamar de Yudjvat. Pourquoi? Parce que dans le mamar de Yudjvat, c'est le premier mamar, discours chassidique que le rabbi a fait quand il est devenu en tant que rabbi, en 5711, donc 1951. Et le rabbi, dans ce mamar, il a beaucoup insisté sur ça. Que nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'amener Mashiach. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là en train de réfléchir maintenant, oui, c'est nous qui allons amener Mashiach, ça veut dire qu'on est très important, etc. Et non. Un soldat, il réfléchit pas comme ça. Et le soldat lui dit, écoute, il y a eu déjà plusieurs soldats qui sont passés avant toi. Ils ont déjà fait beaucoup de choses. Et nous, maintenant, on est les derniers soldats. On nous envoie en dernier. On lui dit, voilà, il reste quelques cibles. Mais ça ne veut pas dire que quand on va gagner la guerre, c'est nous qui avons gagné la guerre. Ceux qui ont gagné la guerre, c'est tous les soldats qui ont donné leur vie déjà. D'accord? Nous aussi, on a gagné la guerre. C'est un peu ce qu'on va expliquer plus tard. C'est qu'on a eu, dans l'histoire, d'accord, des millions et des millions et des millions de soldats, de juifs, qui ont donné leur vie pour un Kadosh Baroukh Hou. D'accord? Qui sont nés, ils ont espéré la Géoula toute leur vie, et qu'ils n'ont pas eu la Géoula. C'est un petit peu comme des soldats qui sont partis combattre pour leur pays, et qui sont morts. D'accord? Et qu'à la fin, t'as une poignée de soldats, d'accord, qui vont venir et que eux ils vont gagner la guerre. Est-ce qu'on peut dire que eux ont gagné la guerre? Mais non, c'est pas eux qui ont gagné la guerre. C'est tous ceux qui sont partis qui ont gagné la guerre. Ils ont clôturé. C'est tous ceux qui sont partis qui ont gagné la guerre. C'est-à-dire que nous, on doit réfléchir en termes de amener Mashiach. Et donc, la Gemara Zakenedi, c'est la raison pour laquelle on peut pas se baser, on peut pas en prendre des choses de la Gemara et de dire, c'est écrit dans la Gemara, que l'étude de la Torah est plus importante que tout, et dire, ah, bah, ça veut dire que dans ce cas-là, on va tout zapper. Parce que si tu vas dans la Gemara, il faut aller jusqu'au bout. Dans ce cas-là, tu zappes la Tfila. Tu zappes le Mitzvot aussi. Ça, on n'a jamais vu aujourd'hui. Les gens de l'époque, quand ils étudiaient la Torah, ils faisaient pas la Tfila. Par exemple, on dit Rabbi Yehuda Hanassi, ils priaient une fois par mois.
Une fois par mois.
Zaout filato chez Rabbi Yehuda Hanassi, dit la Gemara Brachot, Perek Sheni.
Mais du matin au soir.
D'accord. Non, une fois par mois, ils priaient, c'est tout. Parce qu'à l'époque, on était à l'époque où on devait construire la Torah. On était dans la deuxième phase du monde. C'est fini aujourd'hui. La reine, Amrou Razal, c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, et bien on va finir la lettre. Chez Talmud Torah, pardon, Velo Amrou Razal. On reprend Velo Amrou Razal. Alors. Velo Amrou Razal. On va prendre la dixième ligne depuis le bas de la page. Hmm?
Tu as vu juste tout de suite.
Quoi?
Slogan.
Slogan? Lo Amrou Razal Talmud Torah Shaklo Keneged Gimlut Hasadim. Les Chachamim ont dit que l'étude de la Torah équivaut à Gimlut Hasadim seulement. Eila Bimehem. Seulement à l'époque de la Gemara. Chez Talmud Torah Ayaikar Avoda Etzlam, qu'à leur époque l'étude de la Torah était l'essentiel du travail. C'était leur mission. Valken Ayu Chachamim Gdolim Tanaim Vamoreim. Regardez la beauté de ce qu'explique la Gemara Zaken. Il dit c'est la raison pour laquelle à leur époque il y avait des Chachamim tellement grands. On se pose la question, mais où ils sont ces chachamim aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus grand chachamim qu'on a, c'est rien à voir par rapport à la grandeur des chachamim de l'époque. On se pose la question, mais comment ça se fait? Aujourd'hui, on a des grands hommes. D'accord? Des hommes qui sont là, qui peuvent avoir des grandes communautés, etc. Mais on n'a plus les chachamim de l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? L'humanité est plus bête? C'est pas logique. Normalement, plus on avance, et plus on devrait être intelligent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des Rabbi Akiva? On n'a pas des Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas des gens de cette envergure? D'accord? C'est très simple. Il te dit parce qu'on est plus dans cette période est déjà révolue. Ils ont construit ce qu'ils devaient construire. À l'époque, et on était dans la deuxième phase du monde, d'accord? Donc, on a dit de 2000 à 4000. Et dans cette phase, il fallait construire la Torah. Donc, il fallait des cerveaux qui vont avec. Mais cette phase est déjà passée maintenant. Aujourd'hui, on a besoin des hommes d'action. C'est pour ça qu'à l'époque, c'était pas des hommes d'action. C'était pas des hommes de terrain. Aujourd'hui, il faut des hommes de terrain qui vont utiliser la Torah pour être des hommes de terrain. Mais aujourd'hui, on a besoin des hommes de terrain. Ma chaîne Kent, Bedikvot Meshira. Aujourd'hui que la Gemara a dit que depuis le début de la dernière phase, on rentre déjà dans les pas de Mashiach. Shenafla Sukkat David, Ad Iprinad Raglaim Vakvaim. On dit qu'aujourd'hui la Sukkat de David Ameler, ça veut dire que le trône de David Ameler est tombé très bas, à tel point qu'on se dit mais où ils sont ces Talmid Chachamim, où ils sont ces Moshe Rabbeinu, où ils sont ces Rabbi Akiva. Aujourd'hui on essaye de comprendre ce que eux ils voulaient dire. Et encore, si on y arrive. Donc on se dit mais c'est pas possible, on a raté un coche quelque part là. Où on est, c'est pas normal. Et une personne qui va rentrer chez lui va dire, attends, franchement, je vais faire le bilan de tout ce que j'ai étudié dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui? Alors, si je suis pas capable de répéter quelque chose, alors j'ai rien fait. Il dit pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. À l'époque de la Gemara, une personne qui est rentrée chez lui et qui était pas capable de répéter ce qu'il étudiait, on lui dit, tu vois rien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Gemara, le rôle était d'étudier et de comprendre son étude et de construire l'étude. À cette époque-là, Béhémeth, celui qui n'était pas capable d'étudier, on lui disait, monsieur, tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'à leur époque, combien de fois on révisait une étude? 100 fois. Parce que si c'est pas ancré dans ta tête et tu n'es pas capable de le répéter, tu veux rien. Parce qu'à l'époque, le but était quoi? Était de construire l'étude. Aujourd'hui, on n'existe plus le genre de réviser 100 fois. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé?
101 fois, on lui dit.
D'accord? Mais non, même pas. Aujourd'hui, une fois, c'est déjà bien. Pourquoi on n'exige pas aujourd'hui? Parce que c'est plus le but. Le but aujourd'hui n'est pas de construire l'étude. Le but aujourd'hui est de servir à Kadosh Baruch Hu et de préparer les pas de Mashiach. Et la raison pour laquelle on étudie, c'est pour nous aider à préparer les pas de Mashiach dans le monde. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que maintenant, même si j'arrive à 80 ans, je me dis bon, allez, je vais faire le bilan, qu'est-ce que je me rappelle de ce que j'ai étudié dans ma vie? C'est pas grave. C'est comme si tu vas demander à un soldat, rappelle-toi de tous les ordres que ton général t'a donné. Il va pas se rappeler. Et ce qu'il a besoin de se rappeler, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de vivre au jour le jour et d'essayer de réfléchir au maximum au jour le jour de quelle manière je peux accomplir de la meilleure manière possible les ordres du général. Est-ce que dans 10 ans, je dois me rappeler qu'est-ce que le général m'a dit il y a 10 ans? Non. Qui t'a demandé de te rappeler ce qu'il t'a dit il y a 10 ans? Toi, on t'a demandé d'aller vers une mission. T'as fait ta mission? Pas la cavote. T'as fait ce que tu as fait. Ceux qui sont là en train de dire non, on va pas faire comme ça. Nous, on va écouter une fois ce que le général nous a dit. D'accord? Et après, pendant toute notre vie, on va faire Gmara par-ci, par-là, on va essayer de développer comme ça, pour comprendre ce que le général a dit. Et concrètement, il va faire un truc dans sa vie. On lui dit, papa, t'as rien compris ici. Tu n'as rien compris. C'est pas ça ce qu'on te demande. On te demande pas d'être là en train d'analyser les ordres du général. On te demande de faire ce que le général a dit. C'est tout. Ça veut dire que la mission a changé.
Pas discuter.
D'accord? Non, bien sûr qu'il faut discuter. C'est-à-dire que le soldat, il doit comprendre. On dit qu'un soldat, quand il comprend ce qu'il fait, il a plus de 15 ans. Je sais comprendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le but. Le but est de faire ce qu'on doit faire. D'accord? Et c'est ça ce que l'admiral Zaken reprochait beaucoup. C'est ça pour ça qu'il était un peu dur au début de la lettre, parce qu'il dit finalement, est-ce qu'on s'est pas un peu égaré? Aujourd'hui, quand on est là en train d'essayer de vouloir comprendre, on dit, mais attends, on est à côté de la plaque.
Bah, d'ailleurs, au
niveau de l'armée,
vous pouvez pas le dire avant.
Hein? Hein?
Dû commencer et pourtant, comme ça, hein.
Et pourtant, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui parle, c'est l'admiral Zaken. L'admiral Zaken, c'est un cerveau énorme. D'accord? C'est-à-dire qu'il a écrit des textes énormes. Et c'est lui qui te dit, on doit comprendre. D'accord? Non, c'est... Tu dois comprendre, parce que le but d'un cours, c'est pourquoi? C'est pour savoir comment je dois mieux servir un cadeau
pour
mon cours.
S'éloigner de la mission initiale.
D'accord? Ça, c'est le plus important. Machen, non, qui dit, hein, derrière. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Youssef? Dans la Gmara. T'es avec nous ou pas avec nous?
Hein?
On reparle d'iPhone aujourd'hui?
Non, mais ce que moi je pense, parce que moi je, pour moi, quand je disais Gmara, ça voulait dire les lois, quoi. Je pensais pas au
développement.
Il y a une maladie aujourd'hui, excusez-moi d'employer ce terme. D'accord? Non, mais c'est clair, il faut dire la chose clairement.
Ah oui, tu peux dire.
D'accord? Regardez. On a vécu pendant des millénaires. Pendant des siècles. D'accord? Nos parents, nos grands-parents. Tu avais la majorité des gens du Ham Israël, ils ne savaient pas ouvrir une Gemara. Ils étaient quand même des bons juifs. D'accord? Celui qui va venir maintenant, qui va dire, oui, nous on doit étudier la Gemara, et si on n'étudie pas la Gemara, on est à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, qui n'étaient pas forcément des gens qui étudiaient la Gemara, qui venaient au cours à la synagogue pour savoir la halakha, et qu'ils essayaient de temps en temps de penser juive, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient à côté de la plaque. Il était très très fort en halakha. Très très fort en halakha. D'accord? Alors, celui qui va venir, qui va dire aujourd'hui il faut étudier la Gemara, et que celui qui étudie pas la Gemara, il a rien compris. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ils sont à côté de la plaque.
Exactement.
Maintenant, quand vous regardez historiquement, d'accord? Vous remarquerez que la majorité du Ham Israël en toutes les générations, leur rôle, bien sûr que tout le monde a étudié. Mais leur rôle n'était pas de savoir ouvrir une Gemara et déchiffrer une Gemara et rentrer dans une Gemara et rentrer dans la profondeur. Bien sûr qu'ils essayaient de le faire, ils essayaient d'assister au cours, etc. C'est même pour ça qu'il y a eu un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yaakov Kouli, qui a composé un livre qui s'appelle En Yaakov. C'est quoi le En Yaakov? Il a pris les histoires de la Gemara et les parties halachiques de la Gemara. D'accord?
Les midrashim
et les halachot et les choses, on va dire, qui nous concernent au jour le jour. Et il a fait une compilation, il a fait un livre. D'accord? Et on a eu pendant des siècles et des siècles, dans toutes les synagogues, d'accord? Que ce soit dans les synagogues séfarades, ashkenazes, dans le monde entier, il y avait des cours de En Yaakov. C'était pas des cours de Gemara. C'était des cours de En Yaakov. Avec des commentaires qui nous apprennent comment nous comporter comme un bon juif. Aujourd'hui, maintenant, t'as les gens qui vont te dire, oui, il faut apprendre à étudier une Gemara. On dirait que, on veut que, quand on va être enterré, sur la tombe, ça sera écrit, il a appris à étudier la Gemara. Ça va changer quoi? D'accord? Que ça va changer? Est-ce que ça a avancé dans la mission?
Non, en plus qu'on va dans la Gemara, le où tu vas parler de trucs déjà que tu vas peut-être jamais mettre en pratique sur des trucs.
Non, c'est important d'étudier. Ouais. Faut donner, c'est très important d'étudier la Gemara.
T'as l'impression?
D'accord.
Ouais.
Mais je parle de priorité. Je parle de priorité. Le plus important, c'est d'agir. Il faut étudier la Gemara. Il faut étudier. Il faut approfondir. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on a toute notre tête dans la Torah. Mais il faut savoir que d'abord, c'est Kadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est qu'on soit un bon juif. Et que pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires, on a une grande majorité du Ham Israël qui n'étudiait pas. Baruch Hashem aujourd'hui nous a donné, à Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'étudier. Mais il faut toujours savoir l'ordre des priorités. C'est-à-dire, comme on a dit, d'abord la halakha, après la pensée juive, après la Mishnah, et après la Gemara. Bien sûr, on essaye de tout faire, mais il y a un ordre de priorité. Alors quand une personne est là, il a envie d'approfondir dans la Gemara alors qu'il connaît pas la halakha, on dit attends, il y a un problème. Donc faut savoir l'ordre des priorités. OK. Donc il dit l'admorazaken mach enken bigvot meshicha shenafla sukat David. Je veux pas qu'on comprenne de ce que je dis Hasvei Shalom qu'il faut pas étudier le... mais il faut savoir l'ordre des priorités. Faut savoir où on va. Mach enken bigvot meshicha shenafla sukat David atprinan raglaim vagvaim shiprinat asiya en derech davka beemet ou la frakha shochalin oradile ki prinat asiya gam ken shimaase atzdaka. Il dit, de nos jours, puisque de nos jours, on s'approche de Mashiach, et on s'approche de Mashiach, et qu'aujourd'hui, on est descendu tellement bas, aujourd'hui, notre mission, c'est dans Asiya. Aujourd'hui, notre mission est dans l'action. Et quand on parle d'action, qu'est-ce qui est de meilleure action que la Tzedaka? D'accord? Mais la Tzedaka, c'est dans tout. C'est même dans le fait de prendre le temps, de parler à sa femme, de parler à ses enfants. Tout ça, c'est de la Tzedaka aussi. Ce qu'on vient d'expliquer. Tout ça, c'est une mission, de réfléchir en termes de mission, de devoir. Kayadua le maskilim, chez prinat asiya velokut, prinat ashpa vamshachat achayut le matam mata, deletman 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 megamekom. Bon, ça je veux pas m'arrêter dessus. Alors regardez bien. C'est très dur, réfléchir comme ça, parce que vous comprenez que des fois on dit, mais attends, mais j'ai envie de comprendre ce que je fais, j'ai envie d'abord de comprendre ce que je fais. Toi tu me dis, non, d'abord fais, après on verra si tu comprends. C'est très difficile. Il dit que dans ça, pour des choses comme ça, il faut être zever et titro. Il faut faire la shrita à son yetzarara. Il faut égorger son yetzarara. Et que des fois, le Yitzhara, il vient te dire, mais attends, doucement, où tu cours? Bah, t'as compris ce que tu fais déjà? Fais peu, mais bien. Qu'est-ce que tu fais? Peu, mais bien. Fais un petit peu, mais comprends ce que tu fais.
C'est d'accord? Qui
bien sûr. Et quand tu dis au Yitzhara, tu dis non. On a appris qu'il faut avancer, il faut avancer, il faut faire un maximum de mitzvot. Et qu'on comprend ce qu'on peut, mais bon, si on n'a pas compris, il faut quand même faire. Il dit, attends, je veux bien que tu fasses, mais d'abord, il faut comprendre. Odmour Azakin, il emploie un terme très spécial ici. Il dit, the ver et itzro. Pour des choses comme ça, faut prendre son Yitzhara et lui faire la shrita. Ça veut dire qu'on ne discute pas maintenant. On fait, et si on peut, on comprendra. Naaseh v'nishma, exactement comme ce que les Bnei Israël ont dit. On veut comprendre. Mais d'abord on fait, et si on pourra, on comprendra. Et comme je vous dis, c'est la raison pour laquelle, et dans le monde séfarade, et dans le monde d'Ashkenaz, pendant des siècles et des siècles, on a eu des gens qui ont fait sans comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient bêtes? Pas du tout, ils ont tout compris. Il a fait, il a tout compris. Ils ont tout compris. Pourquoi ils ont tout compris?
Voilà le slogan.
D'accord, hein?
Le slogan.
Voilà le slogan. Il a fait, il a tout compris. Pourquoi ils ont tout compris?
C'est incroyable.
D'accord? Pourquoi ils ont tout compris? Ils ont tout compris parce que le Icar, c'est d'avancer. À l'époque, la Gemara, on ne pouvait pas parler comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le Icar. V'chol azover est trop basé. Tout celui qui charcute son Yetzarara dans ça. Vraiment, on parle de charcuter son Yetzarara. Ou poter yado ou levavo. Et qu'il ouvre sa main et son cœur. Il doit savoir que c'est comme ça qu'on casse le mal, et c'est comme ça qu'on marque des points envers l'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est le mal, et nous, qu'est-ce qu'on veut? On va amener Mashiach. On a des cibles. Tu sais c'est quoi les cibles? Les cibles, c'est quand tu n'as pas envie de faire quelque chose et tu l'as fait. J'ai pas envie de le faire parce que je comprends pas, et je le fais. Tu l'as fait, tu viens de marquer une cible. C'est gagné, tu viens de gagner une cible. Tu viens de gagner une cible et tu viens de faire un pas supplémentaire vers Mashiach. Quand tu as de l'autre côté un soldat qui est là, qui va dire, non, moi je prends une mission, je la fais bien, et qui va passer 80 ans à faire une mission alors que les autres, ils en ont fait 50 000, tu dis, ah, mais moi je l'ai compris ma mission. Oui, mais t'as fait une mission. T'as rien fait. T'as rien participé. Ou ma affaire, kashocha le orashem idbarer, shochan aleinu, prinat asiya b'ikvot meshicha, v'is kelir ot, ayn b'ayn wishvashen tzion. C'est ce que nous dit l'admor Hazaken. Il dit que les gens comme ça, les gens qu'aujourd'hui, ils vont prendre le temps, ils vont dire, nous on fait, et après on comprendra, c'est eux les premiers qui auront le mérite de voir et de comprendre lorsque Mashiach viendra. Alors, il y a un mot du Rabbi Rachab très fort, qui dit que, qu'est-ce qui va amener Mashiach? Il dit comme ça, il dit que quand on va s'approcher de la fin des temps, il y aura le sechel, le cerveau qui viendra nous refroidir à chaque fois. Et il y aura des gens, d'accord, qui eux vont dire, on ne suit pas notre cerveau. Ça veut dire, on va pas être là à réfléchir à chaque fois à ce que je fais, je fais pas. On fait et c'est tout. Et il dit, et ces gens-là, c'est eux les gens qui vont emmener Mashiach. Et ceux qui seront en train de réfléchir, eh ben, ils vont continuer à réfléchir. Entre temps, il y a les autres qui vont bosser, et c'est eux qui vont emmener Mashiach. Et c'est pour ça qu'il dit la chose suivante, le Rabbi Rachab. Il dit que de nos jours, plus on s'approche de Mashiach, et plus il faut apprendre à mettre son cerveau de côté. Ça veut pas dire qu'il faut devenir bête. Mais c'est-à-dire qu'au moment où il faut agir et c'est tout. Après, je veux comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Ça, d'accord. D'accord? Mais il faut savoir que plus on s'approche de Mashiach et plus on doit savoir qu'on doit, on doit d'abord agir et après comprendre. Donc il faut mettre le cerveau de côté. Il faut pas se dire, je dois comprendre d'abord ce que je fais. Et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. D'accord? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est dans la troisième phase, la phase où on doit approcher Mashiach. Aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle le Icar, c'est la Asiya, le Icar, c'est l'action. Et ça, dans d'autres endroits, la Gemara Zaken, il explique, il dit qu'on voit que progressivement, c'est ça aussi on le voit, quand on retrace l'histoire, depuis le début des 2000 ans dans lesquels on se trouve, depuis le début donc de l'an 4000, d'accord? Donc depuis le début de la troisième phase, on voit que plus on a avancé, et plus on a poussé le Ham Israël à être dans l'action. Regardez. On va prendre par exemple, juste après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Ham Israël, il y avait encore des grands lamdanim. Il y avait encore des grands érudits. Et on a vu comment progressivement, plus on a avancé, et plus le niveau d'érudition a baissé. Et en parallèle, on a vu comment progressivement le Ham Israël s'est plus lancé dans les affaires. C'est vraiment, si vous prenez l'histoire, vous remarquerez que c'est vraiment limpide. D'accord? On voit que plus le temps a avancé, et plus l'âme Israël, progressivement, il s'est lancé dans les affaires. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient ça? Ils disent oui, parce que progressivement, on s'est assimilé.
Oui, ou ils d'accord. ont abandonné.
Ou ils ont abandonné, etc. Ils sont plus lancés dans le monde de l'action.
Oui.
D'accord? Nous, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui. On dit parce que progressivement, avec le temps, bah, ils ont quitté, donc progressivement, c'est soit l'étude, soit l'action. Et donc, ils ont quitté le monde de l'étude pour entrer dans le monde de l'action. Le Razaki dit, mais pas du tout. Ils n'ont rien quitté du tout. Parce que n'oubliez pas qu'on a un général, que sa seule manière de nous montrer, on a dit le cahier des charges, d'accord? Enfin, la marche à suivre, d'accord? C'est en nous mettant dans le chemin. Je crois que c'est comme ça par hasard. C'est pas passé par hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait comme ça. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui notre rôle c'est d'accomplir des missions, et plus on doit avancer, plus on doit amener Mashiach. Et que les premières missions étaient les missions les plus compliquées. On devait avoir des soldats d'élite. Mais les soldats d'élite, ils sont déjà passés. Les grandes missions, ils ont déjà été accomplies. Nous, on est les derniers soldats. Nous, maintenant, on a les derniers trucs à prendre. Tout ce qui devait être fait par les soldats d'élite, ça a déjà été accompli. Nous, maintenant, le rabbi, il avait l'habitude de dire, et c'est ce que le rabbi dit dans ce mahamar que j'ai devant moi, on étudiera Shabbat matin, moi je voulais le faire aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps. Il dit que nous aujourd'hui on est comme des nains sur des géants.
Sur les
épaules des géants. C'est-à-dire qu'il y a déjà des géants qui ont déjà tout fait. Ça veut dire que tout le travail d'espionnage, le travail de les grandes missions, c'est déjà fait. Ça y est, c'est déjà fait ça. Nous on a le dernier travail d'action. C'est-à-dire que nous aujourd'hui quand on va encourager un juif à mettre des tefillines, on va s'encourager soi-même à faire une mitzvah supplémentaire. On va juste essayer de faire des choses pachoutes, comme mieux s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est des choses qui nous paraissent pachoutes. On va mettre de côté notre sechel pour essayer de faire l'action. Et ben il dit, Kadosh Baruch Hu, tu dis, c'est comme ça que tu fais ta mission. Parce qu'aujourd'hui, on est les derniers soldats qui, eux, vont gagner la guerre. C'est fini, toutes les forces d'élite sont déjà passées. Maintenant, on envoie les derniers soldats qui doivent faire les derniers préparatifs, et dès que c'est prêt, on attaque, on envoie. D'accord? Avec ça, l'Admor HaZaken explique, c'est la raison pour laquelle on voit concrètement que le Zahir Tfé du Ham Israël, retenez ce terme, Zahir Tfé. Ça veut dire le centre d'intérêt principal du Ham Israël a changé avec le temps. Le centre d'intérêt du Ham Israël il y a 2000 ans, c'était l'étude de la Torah. C'est toujours l'étude de la Torah. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande part dans la Tzedaka et que la majorité du Ham Israël passe leur temps dans le travail. Je crois que c'est parce qu'ils sont à côté de la plaque. Ras v'shalom.
Comment tu traduis?
D'accord. Zahir Tfé. Ça veut dire faire attention. Faire attention. Pas du tout. Ras v'shalom. Ça veut dire qu'au contraire, maintenant qu'on est dedans, Kadosh Baruch Hu, il veut que on casse notre Yetzara. D'accord? Et rappelez-vous le terme qu'il dit à la fin de la lettre. Je vais finir avec ça. Il dit, c'est un terme qui est très spécial. Il parle le Zoveach et Yitzro, charcuter son Yetzara. Je crois qu'en 4 ans de Tania, on a vu très très rarement ce terme-là. C'est très très rare comme terme, ça.
Se faire violence.
Se faire violence, exactement. Se faire violence. Et se dire, je fais, même si je comprends pas. C'est un devoir, je le fais et c'est tout. D'accord? S'occuper de ma femme et mes enfants, c'est un devoir. Donner la tzedaka, c'est un devoir. Les priorités, c'est un devoir. D'accord? Ça, la Gemara Zaken dit que ceux qui regardent la vie comme ça, ce seront eux les premiers, d'accord? Qui seront les premiers à bénéficier du dévoilement de Mashiach. Moi, je pense que quand on a une lettre comme ça, ça rassure beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai sauté la lettre. Après la lettre 5, j'ai fait la lettre 9, parce que je pense que c'est dans la même lignée. La même lignée. D'accord? Et quand on voit des choses comme ça, ça nous rassure beaucoup sur la situation du Ham Israël. Ça nous rassure beaucoup de le fait que c'est vrai. Quand tu entends des rabbinim aujourd'hui parler, ils te disent, oui, l'Ham Israël, il est ma'amine, etc. Tu dis, oui, bon, ils veulent dire ça pour nous consoler, les armes avant. Ils n'étudient pas, mais bon, ils sont ma'amine. Ah, ma'amine. D'accord? C'est comme je dis, bon, j'ai dit, bon, il nous console. C'est comme du style, tu dis une personne.
on prend.
C'est clair qu'on d'accord. va pas connaître le chasse.
Tu dis, dis tu sais, c'est comme un élève à l'école qui est bête, ouais. d'accord. Et que la maîtresse, elle va écrire dans le bulletin, elle va écrire, il fait beaucoup d'efforts. T'as envie de dire bon, elle non non pas peut mieux faire.
Là, on voit les notes, hein.
Fais beaucoup d'efforts, dit, d'accord, ou bien très très assidu. Il dit bon, on dit t'as envie de dire que tu dis oui, la maîtresse elle dit ça parce qu'elle a envie de consoler, d'accord. Donc quand on entend des rabbanim aujourd'hui, quand on entend le rabbi, quand on entend des rabbanim parler et de dire qu'on est une génération de ma'aminim et que c'est la emouna dans Israël et etc, on dit oui bon, il dit ça pour nous consoler parce qu'il y a rien d'autre. Il dit mais pas du tout. Il dit pas ça pour nous consoler, il dit ça parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, on est dans une mission, d'accord? Et aujourd'hui, la mission que Kadosh Baruch Hu attend de nous, c'est avoir la Emouna et faire ce qu'il faut faire. D'accord? La compréhension est un bonus. Il faut passer par la compréhension. Mais la compréhension, regardez, avec ça maintenant, je pense qu'on va bien comprendre une diction de la Gemara. Il y a une diction à la fin de la Gemara, Oraya, la Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce qui est plus important entre l'étude et l'action? Qu'est-ce qui répond la Gemara? Non? Elle dit, l'étude est plus importante. Pourquoi? Parce que l'étude amène à l'action. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire en vérité, lequel est le plus important?
L'action.
Et que pourquoi l'étude est plus importante? Pourquoi on étudie maintenant?
Pour l'action.
Mais ça veut dire que si on était des personnes...
C'est le résultat qui compte.
D'accord? Ça veut dire que théoriquement, si nous étions des personnes qui n'avions pas besoin de cette étude-là, d'accord? Et qui auront pu travailler directement sans étude, sans devoir étudier toutes ces études de pensée juive, on aurait attaqué directement. C'est la raison, le rabbi explique, il dit, c'est la raison pour laquelle on voit, hein, que pendant des générations et des générations dans le monde séfarade et dans le monde ashkenaz, on a vu que pendant des générations, le Ham Israël n'a jamais été préoccupé par la pensée juive. Regardez, posez la question à vos, enfin, si on peut leur parler encore, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Ils n'ont jamais étudié de la pensée juive. C'est des choses comme le Tanya, le Moussa, ils ne connaissaient pas. Est-ce que c'était parce que c'était à côté de la plaque? Non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, le but c'est quoi? Le but est de faire, d'agir. À l'époque, ils avaient le pouvoir d'agir directement. Ils n'avaient pas besoin qu'on les là, qu'on les motive, comme nous on est en train de faire maintenant, qu'on les motive. Donc, dès le départ, ils étaient déjà motivés. Ils avaient déjà tout ce qu'il fallait. Le but, c'est quoi? C'est d'agir. Ils venaient à la synagogue, leur rabbin disait, faut faire ci, faut faire ça, comme des soldats. D'accord? Ils n'avaient pas besoin qu'on est là et qu'on les encourage, écoutez, comprenez, etc. Pas du tout. Exactement. Mais avec le temps, on explique le rabbi, plus on a avancé, et plus on a appris avec la modernisation, surtout dans les 300 dernières années, on nous a appris à moderniser, d'accord, et à comprendre, d'accord, un peu l'émancipation. Et donc le rabbi, il explique que pour contrecarrer l'émancipation, qui vient te dire, il faut comprendre ce que tu fais, on a été obligé de dévoiler la pensée juive, donc la chassidoute et le moussard, etc. Pourquoi? Parce que normalement, on n'a pas besoin de ça. Normalement, le but, c'est d'agir. Il faut agir et c'est tout. Seulement quoi? Comme aujourd'hui on s'approche de Mashiach, et que plus on s'approche, et plus c'est le cerveau qui vient et te dit faut comprendre, et que maintenant les gens, si tu leur donnes pas à comprendre, ils vont pas faire, alors à Kadosh Baruch Hu dit, ok, vous voulez comprendre, va vous donner à comprendre, pas de problème, on va vous expliquer. Mais sachez que c'est pas le but. Si on vous donne à comprendre, c'est parce que vous êtes dans une génération où il faut tout comprendre. Alors on va vous expliquer. Mais c'est pas pour ça sachez que c'est pas comprendre pour agir. Et que sachez que les générations avant vous, ceux qui n'étaient pas émancipés entre guillemets, eux, ils n'avaient pas besoin de réfléchir. Eux, on leur demandait, ils faisaient directement. Vous êtes devenus émancipés, vous devez comprendre, alors on va vous expliquer.
On est en Gilgul, là.
D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit savoir que si aujourd'hui on étudie et qu'on a besoin d'étudier pour être encouragé pour agir, c'est en vérité une faiblesse. C'est une faiblesse qu'avant les autres n'avaient pas. Ouais. Les autres n'avaient pas cette faiblesse.
Donc, on revient au point de départ.
D'accord? Alors, le rabbi, il explique deux notions. C'est quoi?
De l'orgueil mal placé.
Pas du tout. D'accord? Le rabbi, il explique que... Ah, oui, oui. Le rabbi, il explique deux choses. Je finis juste avec ça. Il explique qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on voit qu'aujourd'hui, il y a un développement de Torah extraordinaire, qu'il n'y a jamais eu, c'est pour deux raisons. Numéro un, c'est parce qu'on s'approche de Mashiach. Et plus on s'approche de Mashiach, et plus ça Kadosh Baruch Hu de nous préparer, parce que vous comprenez, c'est des gens qui étaient bêtes toute leur vie, et tout d'un coup, tu leur mets l'intelligence, il faut les habituer, qu'il y a l'intelligence dans le monde. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il nous prépare, au fait qu'il y a un puits de science qui est là, que la Torah c'est un puits de science. Ça c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est ce que je vous expliquais. Ce qui est étant donné qu'il y a l'émancipation qui est là et qui nous dit qu'il faut tout comprendre, donc on est obligé de contrecarrer ça avec la compréhension de la Torah. Mais en vérité, si pendant les 2000 dernières années, il y a eu des gens qui ont agi sans comprendre, ils étaient pas bêtes. Ils n'avaient pas besoin de ça. C'était des soldats qui étaient soumis. Maintenant aujourd'hui, malheureusement, on est malade. On est des soldats que si on comprend pas un petit peu, on n'arrive pas à agir. Alors, le général a décidé, il a dit, bon, ben, s'ils n'arrivent pas à agir, on va leur mettre un petit peu, on va leur mettre un peu des rabbins qui vont venir, qui vont les encourager un peu, qui vont les chauffer un peu. Mais en vérité, le but, c'est qu'ils aillent dans le terrain et qu'ils tirent.
Mais bon, on nous a quand même rajouté des mises-votes.
D'accord.
Ils n'avaient pas avant.
Pas du tout.
On nous a rajouté des mises-votes.
Pas du tout.
Non, ils ont toujours
existé. Ah, au Maroc, en Tunisie, en Pologne, ils avaient les mêmes mises-votes.
Ça bougeait pas.
Comment ça se fait? Je peux me poser la question, comment ça se fait que la majorité du Ham Israël, la majorité du Ham Israël, tu le prends jusqu'à il n'y a même pas 50, 60 ans? La majorité ne savait pas ouvrir un livre de Gemara. Et pourtant, alors quoi, c'était à côté de la plaque? Quand tu crois que t'as tout compris, t'as découvert l'Amérique? Pas du tout. C'est parce que comme nous, on a ouvert les yeux, maintenant on veut tout comprendre, alors que je me dis, bon, vous voulez tout comprendre, on va vous donner maintenant à comprendre. On est obligé maintenant.
C'est une autre méthode.
D'accord? C'est une autre méthode. Mais ça veut dire qu'en vérité, la compréhension en soi n'est pas un but. On le fait seulement parce que maintenant, aujourd'hui, les gens, s'ils comprennent pas, ils ont du mal à agir. C'est comme ça qu'on réfléchit dans le monde d'aujourd'hui. D'accord? Mais en vérité, à la base, la compréhension en soi n'est pas un but. D'accord?
Mais quand tu dis que pendant des millénaires, il y a des gens qui ont, ils ont suivi, ils ont été dans l'action, ils ont fait, ils se sont pas posé de questions, en fait.
Oui.
C'est ça. C'est pas lié à la foi aussi? Ils avaient plus de foi et quand il y en a peut-être moins aujourd'hui. Mais
justement. Et pourquoi ils avaient plus de foi?
Bah, ils se posent pas de
Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi l'humanité elle est en descendant? C'est très simple. Parce que progressivement, plus on avance, plus on s'est émancipé. Émancipé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, on doit tout comprendre. Mais maintenant, pour chaque problème qui arrive, Akadosh Baruch Hu a préparé la solution. Donc il a préparé la chassidoute. La chassidoute, c'est la solution. Si tu veux comprendre, on va t'expliquer. Et pas de problème. Normalement, on n'a pas besoin de t'expliquer. T'aurais dû faire sans qu'on t'explique. Mais puisque tu as besoin qu'on t'explique, alors on va t'expliquer. Je vais vous donner un exemple. C'est un petit peu comme, dernier exemple, prends ça, parce que il est déjà vraiment tard. Dernier exemple, c'est comme tu vas chez un docteur. Le docteur il dit voilà, si vous voulez guérir, je donne une ordonnance. Vous devez prendre tel et tel médicament. C'est 4 médicaments. D'accord? Pose pas de questions. Tu veux guérir, tu prends ces 4 médicaments. Bon, alors t'as deux catégories de patients. T'as une première catégorie de patients, il est là, on lui dit prends 4 médicaments, il prend les 4 médicaments. T'as un deuxième, il va dire mais pourquoi ces médicaments?
Ah,
d'accord, j'ai vu que ça. Bon. Alors il va dire écoute. D'accord? Il te dit écoute. Normalement, j'aurais pas besoin de t'expliquer. Normalement, le but, c'est que tu prennes le médicament et que tu guérisses. Peu importe, tu comprends comment ça marche. Le but, c'est que tu le prennes. Maintenant, puisque vous êtes devenu une génération de gens éclairés, vous devez tout comprendre, et que tu comprends pas pourquoi je te donne ce médicament, alors je vais t'expliquer. Viens, t'assois. Je vais t'expliquer à quoi il sert ce médicament. Mais le fait d'expliquer à quoi il sert le médicament, ça n'a rien à voir avec la guérison. Le but, c'est qu'ils prennent le médicament. Et celui qui va dire, attends, il y a 4 médicaments dans la liste, attends, on va faire petit à petit. Moi, je prends le premier. Explique-moi d'abord. Et là, il va passer 50 ans pour comprendre. Ah, bravo, on a pris un médicament. Mais il en manque 3. Le but, c'est pas de prendre... Le but, c'est pas de comprendre le médicament. Le but, c'est de prendre le médicament, pas de le comprendre.
C'est pour ça qu'un médecin D'accord facture maintenant des dépassements d'honoraires.
Je pense que c'est un très bon exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné cette dose de Chorma, et Baruch Hashem, cette science, Baruch Hashem de Torah qui est répandue dans le monde, c'est une réponse à un problème. Il faut pas croire que les générations qui avaient avant nous, c'était des chmars.
Non,
pas du tout. Au contraire, ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris, mieux que nous. Parce que c'était des soldats, ils étaient sur le terrain, ils agissaient. D'accord? Nous, aujourd'hui, qu'on est plus émancipés, qu'on est plus éclairés, alors on a besoin de la Torah, on a besoin d'expliquer les choses. On va les expliquer, pas de problème. Il faut savoir que le but, c'est pas d'expliquer, le but, c'est d'agir. Quand on a compris ça, on a compris quel est le rôle de notre monde, quel est le rôle de la troisième phase de notre monde. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup aujourd'hui sur la tzedaka. Parce que quand on donne la tzedaka c'est l'action. D'accord? Peu importe si tu comprends qu'est-ce qui se passe quand on donne la tzedaka c'est l'action. Maintenant, je reviens à ce qu'on explique au début du cours. C'est la raison. Maintenant, on comprend beaucoup mieux ce qu'il dit la Gemara Zaken, qu'en vérité, quand on réfléchit, on voit que chaque chose de notre vie, faut pas réfléchir à ce que j'aime, à ce que j'aime pas, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai pas compris. Finalement, le plus important, c'est que tu prennes le médicament. C'est que le soldat, il atteint sa mission. Et il y a une mission. Est-ce que tu comprends ou tu comprends pas? Est-ce que moi, je comprends quand je prends un médicament, quelle molécule ça a changé? Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que fais confiance au général qui, lui, t'a dit que tu dois le prendre. Il t'a dit de le prendre, prends-le et c'est tout. D'accord? Je voudrais terminer juste avec un... Il y a beaucoup de points qu'on peut dire sur ça, mais... Chez le Chassidim, on pose la question, on dit comment ça se fait que le rabbi il s'est focalisé sur des choses, sur les 10 campagnes de Mifzaïm. D'accord? Puisque c'est Yud Shvat, c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi. Donc on sait pas, il a lancé 10 campagnes de Mifsaïm, comme les Tfilin, d'accord, encourager les Tfilin, Mezouza, Kashrout, pureté familiale, étude de la Torah, 10 campagnes. Pourquoi le rabbi s'est focalisé sur ces 10 campagnes? Il y a 613 mitzvot. D'accord? Et les mitzvot qu'on peut faire aujourd'hui, il y en a quand même 207. Pourquoi il s'est focalisé sur ça? Encore une fois. Parce que le but aujourd'hui, c'est d'agir. C'est la mission. Et les tzadikim, eux, ils savent, quand t'as des tzadikim qui encouragent, par exemple, des fois, je sais qu'il y a pas longtemps, il y a un tzadik qui a dit à ses élèves, il leur a dit, votre mission aujourd'hui, c'est d'accueillir le Shabbat une demi-heure plus tôt. Faut expliquer pourquoi. En Israël, un yeshiva, un grand yeshiva, un rabbi leur a dit, maintenant, pour le bien-être de la yeshiva, vous devez accueillir Shabbat tous une demi-heure plus tôt. Bah, d'où il sait, d'où il sort ça? Bah, des affaires, fais ce qu'on te demande. D'accord? Ça, c'est le pshat. Le pshat, c'est qu'aujourd'hui, on doit, aujourd'hui, le plus important, c'est d'agir. Et que pourquoi on étudie, c'est pour savoir comment agir. Mais le plus important, c'est d'agir et de faire ce qu'il faut faire. D'accord? Donc quand, maintenant, la prochaine fois qu'on a un obstacle, la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que je veux ou je veux pas le faire. C'est est-ce que je dois ou je dois pas le faire. Je dois le faire? Fais-le. J'ai pas de goût? C'est pas grave. Fais-le. On a demandé à un soldat d'avoir un goût de faire ce qu'il fait? Fais-le. Le goût viendra. Ou oui, ou non. Si t'auras un peu de problème, tu viendras étudier un cours de Rassilou, ça va donner un peu de punch. Mais sinon, fais-le, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais il faut venir au cours de Chassidou parce que c'est ça qui nous donne le punch pour avancer dans le monde émancipé et éclairé dans lequel on se trouve aujourd'hui. Voilà. Chaim le Chaim. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, que l'étude se transforme en action.
Tu dis même pas un petit mot de...
Je vous ai dit plusieurs mots là.